Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans votre émission favorite avec un invité de marque puisqu'il s'agit du nouveau président du conseil d'administration de Valeurs Actuelles qui aura l'occasion de nous expliquer quel a été l'enjeu de son approche au sein de ce groupe de presse, de médias et qui a aussi une autre casquette puisqu'il a été entrepreneur dans le domaine des espaces verts. Alors sans plus attendre, Benjamin, je vais vous demander de vous présenter succinctement et puis de présenter ces deux domaines dans lesquels vous êtes intervenu au cours de votre expérience.
Très bien, bon, Benjamin Lacombe, alors j'ai 50 ans. J'ai la joie d'avoir 7 enfants et effectivement plusieurs entreprises, dont celle qui a été la plus connue, qui fait partie maintenant d'un groupe qui est Mugo. Voilà, et récemment Valeurs Actuelles.
Alors je me demandais d'où venait ce nom Mugo, choisir un nom d'entreprise, c'est jamais simple au départ, je ne sais pas d'où vous le sortez et dans quelles circonstances.
Alors le nom a été trouvé par mon frère, donc Gauthier, avec qui j'ai créé l'entreprise, donc c'est Pinus Mugus, c'est un petit pain maritime, voilà, qu'il adorait, et après, il faut être franc, c'est un nom qui sonne. C'est bien, c'est simple.
Mugo. Oui, ça sonne bien. Merci. Alors, en deux mots, ce domaine d'activité de cette entreprise Mugo, comment vous le définiriez, ce secteur de marché?
Alors, l'intuition première, mais ça date maintenant, parce que c'est il y a de ça maintenant 13 ou 14 ans, c'était avant tout d'abord une passion personnelle qui rejoignait une conviction économique. C'est-à-dire que le milieu des espaces verts, c'est, entre guillemets, assez simple. Donc en fait, on peut s'y mettre très rapidement avec un capital de 40 000, 100 000 euros. Vous achetez une tondeuse, un camion, etc. et vous démarrez jardinier. Donc c'est très accessible. Voilà. Et en même temps, vous aviez cette tendance de fond qui était de l'écologie où on porte énormément d'attention donc à tout ce qui est extérieur, aux arbres qui amènent de la fraîcheur. Donc là, avec la chaleur, bah, ça nous parle.
On est content de les avoir en ce moment.
On est content de les avoir et qui amènent aussi un cadre de vie extraordinaire. Il y a même des études qui disent que ça détend les gens. Voilà, on respire. La nature, c'est quand même le lieu... je trouve le plus unifiant, en tous les cas pour moi. Enfin, oui. Donc voilà, donc réunir à la fois une passion professionnelle, une reconversion, parce que j'avais 35 ans, et en même temps le développement d'une entreprise, c'était un peu l'idéal.
Et en ce qui concerne Valeurs Actuelles, on est sur un marché qui est très connu de la part de nos auditeurs, mais peut-être un peu trop connu. Est-ce que vous pourriez le préciser un peu, ce marché des médias, et peut-être plus particulièrement de médias à forte influence comme Valeurs Actuelles?
Alors, définir le marché, ce n'est pas évident, parce que moi, je suis là-dessus un néophyte, comme d'autres. Donc, Valeurs Actuelles, c'était donc, le 1er janvier 2026. Donc, on a repris le journal avec deux autres actionnaires, que sont Pierre-Édouard Sterrin d'un côté et Alexis Caude. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ce journal est merveilleux, la marque est très connue, et il faut qu'on arrive à le remettre un peu en selle, puisque l'ancien actionnaire était décédé. Donc, c'était plutôt une tragédie familiale. Et donc, il fallait à nouveau réinsuffler un nouveau souffle, etc. Le marché, vous le connaissez. Aujourd'hui, c'est beaucoup de la digitalisation. C'est comment un journal qui est écrit avec beaucoup d'abonnés. C'est un très, très beau journal. Il y a vraiment des lecteurs très fidèles. Comment on va rajeunir, mais comment surtout on va s'adapter donc, aux évolutions du monde. Donc, ce sont des vidéos aujourd'hui qui sont énormément regardées. C'est des influenceurs sur YouTube. Et donc, il faut qu'avec tout ça, on arrive à faire de Valeurs Actuelles, le remettre dans ce monde médiatique, avec, vous avez compris, des énormes paquebots. Vous avez le groupe Bolloré d'un côté, vous avez le groupe CMA-CGM, donc qui sont deux énormes entreprises qui ont investi dans les médias. Et au milieu, vous avez Valeurs Actuelles, avec sa singularité, avec sa liberté de ton, parce qu'on n'est pas d'un camp ou de l'autre. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de retravailler un journal qui va sortir en septembre, en octobre, nouveau, avec une nouvelle pagination, avec ce qu'on appelle un nouveau chemin de fer. Donc, on va avoir... une ordonnance des choses un peu différentes. Et avec, après, là, on a fait deux, trois études marketing, vraiment aussi un retour aux sources. Valeurs Actuelles était une revue financière. Donc, l'économie, le patrimoine, tout ce qui est succession, etc., va revenir un peu dans le journal de façon un peu plus prégnante. Voilà.
Alors, nous allons y revenir, comme je vous l'ai dit, dans un deuxième temps. Avant de parler de votre entreprise dans le domaine des espaces verts, je pense que nos auditeurs seraient très contents de mieux vous connaître. La personnalité de quelqu'un ne se résume pas à travers un CV. Elle découle assez naturellement de l'environnement dans lequel il a grandi, des expériences qu'il a pu vivre, quels que soient les âges. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont vous avez grandi, dans quelle famille et avec quel environnement, quelles influences autour de vous?
Alors, de façon très, très simple, moi, j'ai grandi à Versailles. Donc, c'est une ville que beaucoup se connaissent, à la fois pour le roi qui y a vécu, et actuellement, c'est Macron qui y est aujourd'hui. Donc là, c'est quand même assez rigolo, hein, on y revient. Macron-roi. Et donc, en fait, j'ai la chance d'avoir eu un grand-père, moi, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, hein, qui est compagnon de la Libération, c'est René Lacombe, qui a été député pendant très longtemps dans le Maine-et-Loire. Donc ça, c'est toute la partie Lacombe, hein, qui est voilà, une personnalité avec toute une page de l'histoire de France assez, assez exceptionnelle dans des périodes pas faciles.
C'était à quelle époque?
Et donc, bah, c'était...
quand il était président de l'Assemblée nationale?
Je dirais 1980, les années 80, 90, voilà. Qui est mort maintenant il y a plus de 20 ans, hein, 30 ans.
Oui.
Mais qui a resté une empreinte très forte à la fois parce que c'était un personnage qui avait vécu la résistance, qui avait œuvré pour... en gros, la libération du pays. Donc, on a un goût particulier pour la liberté chez nous et l'indépendance.
Ouais.
Et après, de l'autre côté, moi, je suis le fils de Sabine Yon, qui, elle, est plutôt roquette. Donc là, c'est les familles du Nord et donc des familles où on travaille, où on nous a appris des tout jeunes, voilà, qu'il faut créer des entreprises, réussir et que souvent, d'ailleurs, le travail est aussi le fruit. C'est un peu protestant, hein, mais la réussite est un peu bénie, entre guillemets. Par Dieu, donc voilà, donc vous mélangez tout ça et puis ça fait un bon
de bonnes influences,
voilà,
un bon mix en tout cas.
Exactement.
En fait. Ouais.
Voilà et surtout un grand esprit de liberté. On est vraiment très libre chez nous.
Alors ça, j'ai retenu le côté liberté puisqu'on va le retrouver dans le cadre de l'entreprise où la liberté est parfois un peu conditionnée, mais on y viendra aussi. Pour poursuivre dans le cadre de cet environnement familial et on peut aller un petit peu au-delà. Est-ce que dans votre parcours il y a des choses qui pouvaient laisser penser que vous alliez devenir un jour un entrepreneur en dehors de cet environnement?
Alors, oui, parce que quand on est vraiment insupportable, ce qui est un peu mon cas, c'est très difficile de rentrer dans une structure. Donc voilà, donc moi j'ai fait l'EDEC, qui est une école de commerce voilà, qui était top, hein, qui vous permet, voilà, quand vous faites des études, ben, en France c'est assez facile avec un diplôme, mais je pense que sur le fond... j'ai d'abord fait des études d'histoire, après j'ai fait l'EDEC, là je finis Sciences Po. Mais à 35 ans, j'ai décidé d'arrêter donc, tout ce parcours. J'étais dans les grandes boîtes du CAC 40, hein, Sodexo et Airbus, pour passer un bac pro d'espace vert. Voilà. Et je me suis dit que finalement, j'avais fait les choses dans le sens inverse. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fait des études pour revenir à quelque chose de manuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me manquait cruellement. Et je pense que moi, en tous les cas, dans ce qui m'habite ou dans ce qui me caractérise, il y a une part manuelle très très forte. Très concrète. Voilà. D'abord, moi, je suis toujours très joyeux. Et en fait, dans le jardin, bah, en fait, vous travaillez, c'est physique. Le soir, vous dormez.
Oui.
En fait, c'est un rythme de vie un peu monacal. Ça me va très bien.
On est content de ce qu'on a fait.
On est hyper content de ce qu'on a fait. Il n'y a rien de plus beau qu'un jardin. Ouais. Vous plantez, si c'est des arbres fruitiers, bah, ça donne des fruits. Si vous faites un gazon, vous l'arrosez, il devient vert. Si c'est des fleurs, bah, ça fleurit. En fait, c'est toujours en mouvement. Et en plus, on se dépense. Moi, je trouve que voilà, l'homme dans la nature, on dit souvent le paysan, à l'époque, trouvait son équilibre avec le rythme des saisons. Moi, je l'ai trouvé à travers le jardin. Et je l'ai trouvé à 35 ans, parce qu'il a fallu que j'arrête tout ce processus de école, progression dans les grands groupes, où j'étais assez contraint. Moi, j'ai du mal avec la contrainte, prendre cet espace de liberté, mais qui était intérieur et extérieur, parce que je me suis mis à travailler dehors. Mmh. Et travailler dehors, j'invite tout le monde à faire cette expérience, mais prenez le temps de sortir de vos bureaux et d'aller travailler dehors. Quelle expérience incroyable que de pouvoir travailler dehors.
Et alors, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez quelqu'un d'insupportable. Vous ne donnez pas cette impression quand on discute avec vous. Vous l'étiez déjà...
Il faut en parler avec ceux qui ont bossé avec moi. Je pense que je ne partagerai pas cet avis.
Vous l'étiez déjà enfant ou adolescent, peut-être?
Non, quand je dis insupportable, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup... d'abord, j'aime la performance. Pour moi, est importante. C'est vraiment ce qu'on apprend dans l'entreprise, en tous les cas, dans ces écoles de commerce. Et honnêtement, on n'y apprend pas grand-chose. Donc, au moins, ça, on l'apprend. C'est qu'en fait, il n'y a pas de modèle économique qui fonctionne s'il n'y a pas une rentabilité. Et donc, en fait, le principe même d'une entreprise, moi, les deux choses qui m'ont toujours habité, c'est la pérennité dans le temps. Donc, comment l'entreprise peut passer une génération, deux générations, trois générations. Et d'ailleurs, j'ai fait un mémoire là-dessus en histoire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Encore,
sur quel sujet
Sur l'entreprise Maillot, c'est une entreprise à Saumur sur trois générations.
Oui.
Donc, qui fabriquait des chapelets au 18e, leader mondial, 19e, révolution industrielle. Et 20e siècle, chute, faillite. Ils ont raté la révolution, on va dire, électrique. Et ils se sont mis tous à faire de la politique. Et on va dire, à acheter des châteaux au mieux de travailler dans l'entreprise. Et donc, elle a fermé. Mais tout ça pour dire que, pour moi, la pérennité de l'entreprise, c'était une des clés. Et sa rentabilité. Et donc, en fait, ces deux axes, moi, j'avais envie de les expérimenter. Et je ne les ai jamais lâchés. Et donc, du coup, le développement de mon entreprise Mugo, j'ai démarré artisan, tout seul. Hein. Donc, voilà, imaginez, pendant, les gens disent, oui, mais t'as jamais été... Mais si, si, j'étais tout seul avec ma tondeuse, mon tracteur, dans mon garage, quoi. C'était vraiment un travail manuel. Et après, effectivement, il y a un développement d'entreprise, il y a des mécanismes que les gens sont très à l'aise, ils parlent de build-up, c'est-à-dire qu'on rachète d'autres entreprises, on agrandit le périmètre, de l'Île-de-France, on passe à la province, et ainsi de suite. Mais ça, c'était une deuxième étape qui n'était pas l'étape que j'ai choisie, mais qui était celle nécessaire à la pérennité de l'entreprise.
Alors, pour ça, il faut quand même quelques moyens financiers, parce que racheter des entreprises, alors soit on a très très bien démarré son entreprise initiale, on a d'emblée de fortes rentabilités et on peut procéder à des acquisitions, soit on a d'autres moyens en faisant rentrer des actionnaires fortunés.
Quand je vous dis que je suis très indépendant, je reste très indépendant. Oui. Non, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la passion. Je pense que j'ai toujours peut-être travaillé peut-être deux fois plus au début que les autres. Donc déjà, vous êtes deux fois plus rentable. Et la passion donne vraiment un supplément de rentabilité et de performance, parce qu'en fait, on va vraiment chercher les coûts de clients, on va chercher ce qui anime même notre sujet. Et après, l'autre réalité, et ça, vraiment, je le dis, c'est qu'en France, on a un écosystème hyper positif. Et moi, quand j'entends, je vais être franc avec vous, là, je suis à Radio Courtoisie ou même à Valeurs Actuelles ou à CNews qui ont une vision plutôt assez noire du pays, moi, je fais partie des gens qui ont une vision mais hyper positive. Alors, je n'ai pas une vision forcément politique, mais j'ai une vision économique. On a un écosystème, je dis à tout le monde, mais créez vos entreprises. Par contre, attention, pérennité et création de valeur. Donc, on n'a pas besoin d'argent, les banques vont vous aider. L'État va vous aider au début. Par contre, voilà, soyez pertinents, soyez ambitieux, et ça fonctionne vraiment tout seul. Et je le dis parce que c'est mon histoire. Et je n'ai pas mis plus d'argent que je n'en avais. Donc, je suis parti avec ma rupture conventionnelle de l'époque, et avec une entreprise, honnêtement, qui faisait très bien les choses, qui était Sodexo, dans laquelle j'ai tout appris. Ça aussi, c'est vraiment un conseil que je dis aux gens, mais vraiment, apprenez de ces grandes entreprises, c'est l'excellence française, finalement. Les boîtes du CAC, c'est l'excellence française. Par contre, n'y restez pas et créez une entreprise qui, demain, fera de vous un de ces acteurs du CAC. Et en fait, c'est assez simple dans le service. Voilà, ça ne serait pas la même chose, peut-être, sur une start-up ou sur
une industrie. Investir.
Ouais, où il y a des gros... Mais honnêtement, on a un écosystème qui est vraiment favorable. Je pense que si vous êtes dans votre projet pertinent, mais alors évidemment, attention, attaché au marché, vous êtes patron aussi, donc vous le savez. Si vous écartez du besoin client, honnêtement, vous êtes mort.
Alors ça, vous faites bien de le dire.
Si vous êtes dedans,
si vous
êtes
écartez
dedans.
Du besoin client, je suis content que vous le disiez spontanément comme ça, parce que je dis communément que le patron d'une entreprise, c'est le client. Et bien souvent, les gens disent ça, c'est une façon de parler, en disant on va parler du client, mais il y a peu de patrons qui restent en contact étroit avec le client, qui font la démarche et qui gardent finalement le fil directeur de leur entreprise.
Oui, alors je vous dirais, si ce n'est pas votre fil directeur, trouvez un associé qui l'a.
Oui.
Parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'entreprise sans client.
Oui.
Et jusqu'à preuve du contraire, à part l'administration française, qui excelle d'ailleurs dans la gestion des comptes publics, ça, les boîtes ne marchent pas. Quoi.
Oui.
Non, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend aussi dans nos écoles de commerce. C'est-à-dire que n'oubliez jamais que c'est le client qui nous fait vivre. Donc en fait on peut pas aller contre lui. Alors après il y a certains modèles où quand vous devenez tellement fort, c'est vous qui un peu fixez les règles du marché, hein. On va pas parler de nos amis américains, mais c'est un peu le principe de Google et consorts, mais c'est un peu des exceptions. Donc non, et puis je vais être franc avec vous, ça c'est encore un autre sujet, mais en fait il faut aimer les gens. Et moi j'aime les gens, enfin j'ai toujours adoré mes clients. J'ai adoré mes clients, j'ai adoré mes équipes, et en plus j'ai adoré mon produit. Et en fait je pense que c'est une belle dose d'amour qu'il faut, donc pour moi l'entrepreneur il doit aimer. Il doit aimer parce qu'on dit toujours finalement, en tout cas dans un métier de service, il est fait par des hommes. Donc en fait, c'est des hommes au service d'autres hommes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a inspiré et c'est ce qui m'a donné envie. Voilà.
Et c'est ce qui vous a sans doute permis de réussir ce développement, parce que si on n'aime pas les personnes et qu'ils ne nous suivent pas, ça devient difficile. Les gens ne peuvent pas rester sous la contrainte éternellement.
Enfin, non, il faut, il faut beaucoup de liberté. Ouais. C'est une boîte quand même assez libre.
Mais oui, vous venez de dire deux choses. Qu'on remarque pas autant que ça quand on discute avec les entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui vous disent il faut aimer ses collaborateurs, il faut aimer les gens. Alors pour vous, c'est peut-être un petit peu aussi différent parce qu'on a discuté un peu avant, vous êtes croyant, donc vous êtes forcément inspiré par une relation vers les autres qui est une relation d'amour que l'on a spontanément quand on est croyant et que l'on va aussi appliquer dans le cadre d'une entreprise comme dans le cadre d'un club de sport ou...
Ouais, alors là, je serais plus
nuancé.
Ouais. Pour la simple raison, c'est que dans les jardins, vous avez que des gens qui sont hyper intègres. Ouais. Et donc, en fait, moi, je dirais pas tant que c'est ma foi qui me porte que cet aspect authentique que j'ai redécouvert en étant manuel. En fait, dans les métiers manuels, les gens sont authentiques.
Ouais.
En fait, il n'y a pas cette espèce de cache qu'on a là dans le milieu de la presse ou dans les journalistes ou dans les cadres où les gens s'habillent pour ressembler à quelqu'un ou à quelque chose. Honnêtement, c'est vraiment le livre... accueillir l'autre en soi, de mon oncle, frère Ephraim. C'est vraiment ça. En fait, on est dans un monde un peu mimétique aujourd'hui. Et en fait, dans les jardins, les gens, en fait, quand vous travaillez dehors, vous êtes ce que vous êtes. Et en fait, du coup, la relation humaine est hyper simple. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aime ou on ne s'aime pas, il n'y a pas de filtre. Et donc, en fait, quand vous avez un caractère assez joyeux, spontané, en fait, vous le partagez et les autres vous le rendent. Ouais. Dans un grand groupe avec des bureaux et des machins, et chacun derrière son bureau en télétravail. Et je vais être franc, je ne sais pas trop ce qu'on peut donner et rendre.
Oui, je suis d'accord.
Mais voilà, c'est aussi un métier et puis c'est une personnalité. Moi, je pense que j'ai trouvé le lieu où j'étais vraiment uni.
Oui. Je vais rester sur ce dernier point, puisque vous parliez de l'authenticité de la relation dans le domaine d'activité dans lequel vous étiez. Et je crois que vous y êtes encore un petit peu, mais à titre de loisir, maintenant. Enfin,
oui, je suis administrateur aussi.
Et l'authenticité, elle est liée au réel, parce que, effectivement, dans des métiers manuels comme ça, on ne peut pas tricher, on est confronté au réel.
Ouais, exactement.
Au-delà de ça, quand on est entrepreneur, qu'on aime les gens, qu'on ait une relation authentique, qu'on a ce souci de rentabilité, qu'on est dans un domaine d'activité qui n'est pas connu pour être le pétrole ou d'autres domaines particulièrement rentables, pour arriver à croître, ce n'est pas forcément simple, j'imagine. Dans des contextes aussi... Alors, je ne sais pas comment se porte ce marché, parce que le marché des espaces verts, on peut considérer qu'il est porteur avec tout ce qui se passe dans les villes.
Sur les marchés publics, oui. Ouais. Si, c'est une réalité. Mmh. Après, c'est un marché qui est très paradoxal. C'est qu'à la fois, vous avez peut-être 80% des entreprises d'espace vert, c'est des entreprises entre 1 et 2 salariés. Donc, en fait, c'est un métier un peu d'indépendant avec 1 ou 2 salariés. Et dans chaque petite ville de France, vous avez ça. C'est une population qui draine l'ensemble du pays. Donc, déjà, c'est un métier vraiment national.
Oui.
Et on a une vraie culture et un savoir-faire. Les Français, en jardin, sont les meilleurs, quasiment. Bon, avec les Anglais, OK.
Oui, les Anglais, pas mal, oui.
Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont plus de pluie que nous. Mais on a un vrai savoir-faire, un vrai talent. Et donc, ça, c'est déjà la première chose. Et donc, du coup, chaque Français, finalement, dans son cœur, à un moment ou un autre, quand il a ce côté manuel et il a vécu plus ou moins à la campagne, en fait, il se dit, je peux me mettre à mon compte. Ce qu'il fait assez facilement.
Oui.
Et là, il peut vivre de façon assez astucieuse, en service à la personne, etc., sur un équilibre économique qui est bon. Voilà. Oui. N'oubliez pas que moi, je dis toujours, les élagueurs aujourd'hui, c'est le métier le plus rémunérateur en espace vert et ils gagnent largement plus que n'importe quel cadre en France. Hein. On démarre entre 2004 et 2008 net. En élagage, à 22 ans.
Pas le, un cadre gagne plus quand même.
Au démarrage, non. Et après, il monte très très haut.
Ouais. Après, il y a une prise de risque énorme aussi.
Voilà, une prise de risque. Ouais. Mais ce que je veux parler, c'est que c'est un métier qui est assez rentable. Et donc, les patrons qui y vont, en fait, gagnent bien leur vie.
Ouais.
Et après, donc là, vous avez tout un écosystème avec les particuliers, les petites entreprises qui travaillent très bien. Et après, quand vous arrivez sur les marchés publics et sur ce que la deuxième étape, on pourra en parler, ce qui sont plutôt les grands marchés nationaux, internationaux, là, vous avez des groupes. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui investissent et qui prennent en main ce marché pour le structurer et essayer d'en faire un peu de grandes structures avec des modes opératoires très qualifiés, avec des certifications, avec des matériaux vraiment particuliers qui décident de lourds investissements. Et donc là, on a un deuxième marché qui est de plus en plus conséquent, qui est celui des villes, où effectivement la partie espace vert est devenue un vrai marché et avec plein de nouveaux acteurs qui interviennent maintenant sur les espaces verts.
Voilà. Et c'est des marchés qui ne sont pas trop difficiles d'accès, parce que j'imagine que comme il y a de la décision politique derrière tout ça, il faut être dans les petits papiers ou...
Alors, en public, ce n'est pas difficile d'accès pour être dans les petits papiers, c'est juste parce qu'il faut faire des dossiers et avoir les certifications.
Oui.
Il faut une certaine taille et une certaine crédibilité. Et après, non, c'est un marché qui est encore très accessible. Alors déjà, il y a plein de boîtes qui sont parfois où les gens arrivent à la retraite, et donc ils cherchent des gens pour reprendre les entreprises. Et c'est, moi, je dis aux gens qui ont cette passion et ils vont le sentir vite dans leur cœur, il faut y aller.
Oui.
Et après, il y a deux itinéraires possibles. Soit garder cette entreprise dans son écosystème local.
Oui.
Donc, vous rachetez une boîte à la Baule, par hasard, ou je ne sais pas, moi, à Vannes. Et vous restez à Vannes et vous vivez très bien avec une belle ambiance, des équipes, du beau matériel et vous avez votre écosystème. Soit vous avez l'ambition de développer. Du coup, vous allez racheter d'autres entreprises dans d'autres régions pour devenir leader régional ou leader national ou européen.
Oui.
Et donc là, c'est le cas. En fait, les fonds maintenant d'investissement essayent de développer en Europe l'ensemble du périmètre des espaces verts.
Quels sont les principaux leaders dans ce domaine d'activité ?
Donc, il y a deux grands leaders. Donc, le premier en Europe, c'est Idée Verde. C'est une entreprise qui appartient, je crois, à un fonds belge, qui est un peu la référence. Et le deuxième, et d'ailleurs, ce sont des Français à l'origine, c'est un ancien patron de Bouygues, c'est donc Haussmann. Haussmann, qui est l'entreprise Pinson, qui est une entreprise assez extraordinaire. Et pareil, c'est construit un peu de la même façon et qui commence maintenant à être présente en Europe. Donc, voilà.
Et si vous aviez continué, vous étiez en mesure d'aller les chatouiller ?
Alors non, parce qu'après, il y a une réalité humaine. Moi, je pense que je n'ai pas forcément le savoir-faire ou la compétence. Après, au bout d'un moment, vous avez une taille qui nécessite peut-être de structurer l'entreprise ou peut-être de la... peut-être d'autres compétences, et peut-être que voilà, là c'est un peu l'humilité, peut-être que je n'aurais pas su faire, peut-être plus tard, et il me paraissait bon de m'appuyer sur d'autres, parce que pour le coup, les gens qui savent tout faire, moi j'en connais pas. En tous les cas, moi je sais ce que j'aimais faire et je sais ce que je ne faisais pas bien. Donc ça, c'est un peu la leçon aussi de l'entreprise, c'est toujours une belle leçon d'humilité. Et donc, j'aurais jamais la prétention de dire je suis capable de faire ce que font ces fonds. C'est un autre métier, lever de l'argent, structurer. Ben voilà, ça c'est quelque chose
que... d'autre proche de financier, c'est plus compliqué.
Ouais, enfin, alors moi, je n'étais pas très financier. Ouais. Voilà, il faut le devenir, mais c'était pas...
Alors, revenons à la genèse hein, de cette entreprise, de cette belle entreprise qui existe toujours. Hein, vous l'avez cédée.
Oui, alors elle est maintenant dans un groupe. Alors, elle n'existe peut-être plus en tant que telle. Ouais, mais voilà, elle s'est intégrée dans ce fonds qui est immense.
Oui. Voilà. Donc, elle fait partie d'un groupe, mais avec d'autres activités qui étaient similaires ou elle est venue
compléter? Oui, que similaires. Non, c'est que de l'espace.
Et le groupe s'appelle comment?
Donc, c'est Pinson, essentiellement, qui est très connu.
Oui, d'accord.
Haussmeier. Voilà.
OK. Alors, du coup, j'allais vous poser une question, mais je reviens finalement à celle qui apparaît tout de suite. Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit que vous avez mis dans votre entreprise pendant ces 12 années, 13 années, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça.
Va pouvoir être gardé dans le cadre d'un groupe comme Pinson?
Ah, c'est un peu la question de Joker. En fait, ce qui est très difficile, mais ça fait partie des apprentissages de la vie, c'est qu'en fait, quand vous construisez quelque chose, vous le construisez à votre façon, avec vos forces et vos faiblesses, que je connais pertinemment. Donc, je connaissais les forces de cette entreprise et ses faiblesses. Et en fait, quand vous basculez à une autre direction, elle arrive avec son mode opératoire et qui souvent est à l'opposé, puisque en tant que patron, un peu unique, j'avais cette pertinence de pérennité et de marge, mais à ma façon. Oui. Eux arrivent avec un autre mode opératoire et d'autres personnalités. Et là, il y a une confrontation qui est assez difficile avec ce qu'on appelle pivoter ou pas pivoter, mais c'est vrai que c'est une autre culture. Il faut s'adapter, il faut rentrer dans leur logique qui est à l'opposé de celle qui était la mienne. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. C'est difficile, mais néanmoins, ça fait partie des challenges. Moi, j'ai toujours vécu ma vie un peu comme ça. C'est une nouvelle étape, un nouvel apprentissage, comment on est capable de se remettre en cause, d'essayer d'être le meilleur, de travailler de façon collective avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, mais pour le meilleur. Oui. Et c'est ça que j'aime bien dans l'entreprise, c'est que finalement, quel que soit le sujet, eh ben en fait, on apprend à travailler ensemble sur un objectif final qui est toujours pérennité du groupe ou de l'entreprise et création de valeur pour les actionnaires ou même pour les salariés, parce que tout le monde s'enrichit avec l'entreprise. Et donc là, c'est cette période qui est un peu plus difficile, effectivement, où comment on arrive à changer de culture avec des gens qui ont été formés d'une certaine façon, on leur demande d'être différents et donc de s'adapter à un autre système. Et eux-mêmes, ceux qui sont avec nous maintenant, donc Pinson et Haussmeier, comment eux arrivent à s'emparer de l'entreprise dans ce qu'elle a de bon et à la valoriser. Et c'est vrai que c'est passionnant. Hein. C'est pour ça que je fais cette formation à Sciences Po en tant qu'administrateur, parce que j'essaie de comprendre comment réunir de façon collégiale, de façon collective, des contraires. Comment, là où les hommes devraient s'opposer, on doit réussir à travailler ensemble. Comment là où chacun peut avoir un intérêt différent, le fond est plutôt court terme, moi je suis plutôt long terme, il faut qu'on arrive à s'entendre pour une sortie qui soit toujours juste pour l'ensemble des parties prenantes. Donc en fait tout ce travail qui pourrait être très très bon pour la politique, comment faire que finalement avec un objectif commun qui pourrait être la France, donc sur l'entreprise au moins on sait ce qu'il en est, on arrive sur peut-être un ou deux points essentiels à travailler ensemble, dépasser nos personnalités, nos égos, nos jalousies aussi, il y a pas mal de jalousies, pour en faire quelque chose de plus grand. En tout cas, c'est un challenge, moi, qui me plaît et sur lequel, effectivement, j'essaye de travailler.
Alors, voilà. Là, ça va être le cas pour l'entreprise dont on va parler après, mais pour l'entreprise dont on a parlé jusqu'à présent, c'était un challenge auquel vous avez été confronté tout au cours de cette aventure. Je vais revenir à l'origine, mais encore une fois, puisque dans ce que vous dites, il y a beaucoup de sujets qui émergent. Une des questions que je me posais, c'est quand on cède une entreprise comme celle-ci, qu'on a marqué de sa patte, qu'on a marqué de son esprit, qu'on aime ses collaborateurs qui vous le rendent bien, j'imagine, au bout d'un certain temps. Est-ce que ceux-ci ne peuvent pas avoir un peu l'impression d'une trahison quand ils sont vendus et,
Si, certainement, oui.
Est-ce qu'il y en avait qui étaient actionnaires, par exemple, qui ont été intéressés à l'opération?
Alors, en fait, ce que vous dites, et alors là, c'est pareil, c'est très business. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, on a toujours ces trois responsabilités. C'est nos clients, nos collaborateurs et, en gros, la rémunération du capital. Parce qu'en fait, une entreprise, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit rentable. Ce qui a été fait là, c'est qu'effectivement, ils ont été associés au résultat. Donc, dans le fond, ils sont tous actionnaires du fonds, les cadres principaux. Et après, l'autre étape, effectivement, il y a une certaine trahison parce qu'en fait, on était sur un fonctionnement qui était porté par le PDG qui était moi. Oui. Donc, effectivement, quand il y a une cession, il y a une trahison parce qu'en fait, on change un peu l'itinéraire qui était prévu. Oui. Néanmoins, avec du recul, c'est forcément très dur, mais c'était le choix qui était bon pour l'entreprise, pas forcément pour les individus. Mais à l'instant T, en fait, moi, j'avais estimé que je n'étais plus la bonne personne pour porter l'entreprise.
D'accord.
Et donc, à ce titre-là, quand on n'est plus la bonne personne, il y a deux solutions. Soit on dit, bon, bah, l'entreprise va continuer et elle va vivre, et les collaborateurs vont être contents, ça va tenir encore allez, 5, 10, 15, 20 ans. Et on sait qu'à un moment, ça s'arrête. Soit on se dit, bon, bah, voilà, on fait effectivement ce qu'on appelle un peu un grand coup de barre, quoi. Et on dit, bon, bah, allez, on va y aller collectivement en faisant le mieux, en essayant de récompenser chacun à la mesure de ce qu'il est, d'associer le maximum dans la négociation les collaborateurs, de trouver une place quand c'est possible, attention, parce qu'après, la nouvelle gouvernance ou le nouveau patron, en fait, fait des choix qui ne sont pas les miens, mais que j'accepte, puisque, en fait, on est ensemble. Et après, effectivement, chaque collaborateur, et je le redis toujours, a sa propre liberté. C'est-à-dire qu'on n'est jamais esclave de son entreprise. On peut toujours chercher un boulot ailleurs, démissionner. Et moi, j'ai toujours pris mon job de façon très claire. Moi, je suis le patron et je vous verse un salaire. En échange, je demande un travail. Je ne vous demande pas amour, fidélité, etc. Ça, c'est plutôt dans la vie privée et dans le couple. Mais il ne faut pas confondre les deux. L'entreprise est quand même avant tout un sujet social avec un cabis, avec un... nous, c'est jardin, espace vert et entretien. Il n'y a pas écrit amitié, folie, avis et jour et jour. Donc ça, j'ai toujours redit parce que parfois, on a des collaborateurs effectivement, qui se disent, c'est toute ma vie. Non, l'entreprise, en fait, c'est un organisme propre, elle a ses règles de fonctionnement et il faut savoir bien la diriger de façon à ce qu'elle grandisse, si c'est le souhait, ou qu'elle ferme. Hein, parce que combien d'entreprises ferment aujourd'hui donc voilà, donc moi, j'ai fait ce choix-là qui était un choix de responsabilité, qui n'était pas un choix facile. Hein. J'en parle comme ça très légèrement, mais... C'est vraiment un deuil aussi à titre personnel. Hein. Donc, voilà.
Et alors, donc, du coup, cette fois-ci, je reviens à la création, parce que c'est une étape très importante. On sait que selon les modalités de la création, on génère déjà son échec ou sa réussite très tôt, en définitive.
Ah oui.
Et à l'époque, bon, vous aviez 35 ans, vous avez 7 enfants, vous en aviez combien à cette époque-là
Je ne sais pas.
Ouais, bon.
3-4.
3-4, bon. Comment vous avez pris la décision en famille, avec votre épouse, risques consécutifs, même si vous aviez une enveloppe intéressante en partant de votre précédent groupe, ça ne suffit pas.
Il faut être un peu inconscient. Je pense qu'on est tous pareils. En fait, on a une dose de liberté. Moi, je reviens toujours sur la liberté parce que je pense que c'est ce qui me porte. C'est pour ça aussi qu'on pourra parler des actifs anonymes, mais de ces soirées qu'on organise. Je pense que la liberté est quelque chose qu'on a oublié en France. On parle toujours d'égalité, de fraternité, c'est pipeau, quoi. Moi, la liberté est vraiment mon moteur, cette liberté. Après, c'est discerné aussi en couple. C'est-à-dire que Solène, effectivement, était partie prenante. Elle a beaucoup travaillé avec moi au début.
Elle vous a aidé dans le lancement de l'entreprise,
Elle avait fait Dauphine, donc elle maîtrisait la compta, elle maîtrisait, je sais pas, plein de sujets. Elle a gentiment suivi un peu son mari, un peu fou.
Oui.
Voilà, parce qu'on avait quand même les tondeuses dans le garage et on avait les camions, les ouvriers dans la cuisine. Donc il y a toujours un moment où on partage un peu notre vie familiale avec la vie de l'entreprise.
Et que fait-elle aujourd'hui?
Elle est maintenant au conseil d'administration de Cyclochaud. Donc c'est la formation de jeunes filles.
Cyclo, c'est pas des vélos. Hein,
non, Cyclochaud, c'est le cycle féminin. Alors les femmes connaissent souvent, c'est maman et fille. Oui. Donc voilà, et donc elle est animatrice et elle est formatrice de ça. Donc c'est une œuvre merveilleuse dans laquelle elle s'épanouit beaucoup. C'est assez exigeant, mais c'est très en adéquation d'ailleurs avec notre société. C'est-à-dire que c'est très libre et c'est très plein de bienveillance sur le regard de la femme, de la mère et de l'enfant. Et donc voilà, c'est une journée de formation complète sur des jeunes filles qui sont entre 6e, 5e et qui effectivement deviennent femmes à travers leur cycle féminin, donc leurs premières règles, le changement du corps. Et donc, avec leur maman, elles vont parler de tous ces changements et comment elles l'ont vécu entre elles toute une journée. Et c'est merveilleux. Moi, je vois toujours les comptes rendus à la fin des mères et des filles. C'est des larmes, c'est une joie retrouvée, c'est une unité créée, c'est aussi une appréciation, je pense, une acceptation de son corps. À une époque, on dit les filles veulent être des garçons, etc. Là, c'est vraiment mettre en avant la beauté de la féminité. Donc, c'est quelque chose qui a du sens. Et donc, du coup, dans lequel elle s'épanouit. Et puis, moi... On a arrêté à un moment, elle m'a quand même quitté parce que les jardins, ça devenait trop gros. À 500 salariés, elle a dû quand même prendre un peu de distance. Et puis, on avait beaucoup de risques. Là, on parle de beaucoup de joie et de liberté, mais il y a eu deux, trois... on a frôlé deux, trois faillites à un moment. On a eu deux, trois soucis, comme tout entrepreneur. Hein.
Mais il faut,
on les oublie, les entrepreneurs. On oublie les difficultés parce qu'on est un peu fou, mais...
Et il faut que vous les évoquiez parce que je pense que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui se posent la question d'entreprendre. Et je crois que c'est intéressant de montrer toutes les facettes hein, de cette situation. Pour terminer sur Cycle chaud, ça s'écrit comment chaud? C'est comme chaud, c'est
alors c'est à, ouais, à l'anglaise. Non, cyclo, c'est le cycle, et chaud, c'est S-H-O-W.
Donc, ouais. Ok. Voilà. C'est une sorte d'écologie humaine, en définitive.
Ouais, exactement. Oui, exactement. Tout à fait. C'est allemand. Ouais. C'est une association allemande. Mmh. Ils ont été, je crois, audités par le Sénat. C'est tout à fait dans le cadre, aujourd'hui, de ce que demande le gouvernement ou l'éducation nationale sur la formation des jeunes.
Oui.
Donc, voilà. Et donc, ça s'inscrit là-dedans. Et c'est ouvert à tous, enfin voilà. Enfin, aux mamans qui aiment leurs filles et aux filles qui ont envie de passer du temps avec leur maman.
Et alors donc, vous
êtes... Mais c'est pas mon sujet. Hein. Oui. Là, j'interviens sur les sujets qui ne sont pas les miens. Oui. Donc elle viendra si vous voulez vous en parler. Je ne sais pas si vos éditeurs sont très féminins.
Je pense que nos auditeurs sont intéressés partout.
Cinquième et sixième. S'ils ont des enfants ou des filles, en tous les cas. Voilà.
Mais en tout cas, c'est certainement quelque chose d'essentiel qui a parfois été survolé, je pense, dans les familles.
Hein. Exactement.
On parlait d'écologie humaine, là, donc on est dans une autre écologie plus traditionnelle avec les espaces verts. Vous me disiez, vous êtes écologiste finalement, mais vous faites une différence bien sûr avec l'écologie politique. Comment vous pourriez positionner ces deux aspects?
Alors moi, pour avoir rencontré Marine Tondelier, honnêtement, paradoxalement, on est assez proches. C'est-à-dire qu'on a la même sensibilité, le même regard sur la nature, la même attention en fait aux choses. Moi, je suis très blessé quand... ça vaut pas bête, mais quand on parle de coupes d'arbres et quand on voit des coupes d'arbres rasées, enfin, ou quand on voit parfois certaines natures un peu défigurées, alors, on va pas parler des éoliennes, mais voilà, c'est des choses qui m'agressent. Je pense qu'en fait l'écologie intégrale est merveilleuse, après elle est complexe, hein, et elle est vraiment exigeante. L'écologie politique est super, le seul problème c'est qu'en fait ils parlent plus vraiment d'écologie au sens de la biodiversité, ils parlent de l'écologie au terme sociétal. Et moi, comme je suis quand même valeur actuelle plutôt conservateur, ayant 7 enfants, j'ai plutôt une vocation à me dire mais l'écologie est merveilleuse si elle est au service de l'humanité. Alors que l'écologie politique a fait finalement de la nature l'homme un ennemi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut plus d'enfants, il faut pas ci, il faut pas ça. D'abord, moi, j'ai un truc, hein, faut jamais me dire il faut pas. Moi, comme je suis très libre, les mecs, ils me font la morale et les écologistes ont tendance à faire la morale. En fait, moi, je suis attristé, mais je ferai jamais la morale parce qu'en fait, derrière tout sujet, il y a une explication. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai cette sensibilité écologique que j'ai toujours eue, qui fait que voilà, j'étais assez proche de Gilles Clément à une époque, qui est un grand paysagiste. Il y avait une petite histoire, je vais vous raconter. Une fois, on a été chez Gilles Clément, c'était une sommité hein, dans le monde de l'écologie et du paysage. Et chez lui, c'était touchant. Un arbre était tombé. Sur son chemin. Et donc, la première analyse de l'homme, c'est que quand l'arbre tombe, donc là, vous allez à la D2, ils disent, on va le couper. Et bien, lui, ce qu'il avait fait, il avait dit, non, l'arbre est tombé, et donc, je vais dévier mon chemin. Et c'est touchant parce que, du coup, vous voyez les traces de ses pas, parce qu'en fait, on allait, c'est dans la Creuse, au bord de l'eau. Et en fait, l'arbre étant tombé, ben, il s'était débrouillé pour contourner l'arbre en le laissant au sol. Et c'était une démarche, j'ai trouvé, qui était tellement à la fois philosophique et c'est tellement ce qui nous manque aujourd'hui. Que c'est toujours resté gravé dans ma mémoire. En fait, la nature, en fait, elle a son rythme, elle a sa beauté, elle a ses cycles. Et puis, bah, on arrive, on coupe, on casse, on déblaye. Et c'est vrai que ça, parfois, c'est un peu triste. Après, honnêtement, on a un pays qui est dingue. Moi, je vois, enfin, pour avoir fait du jardinage à travers toute la France, c'est quand même dingue. On a des paysages, mais dingue. On a des végétaux qui changent selon les régions. On a des fleurs qui changent selon les régions. On a des arbres, on a des fruits. Enfin, moi, j'ai fait Lyon, c'est extraordinaire. Après, on était à l'est de Paris, c'est extraordinaire, même si c'est des grands champs et de la monoculture. En fait, chaque région, en plus, a une population qui a vraiment du caractère, a une végétation qui est vraiment spécifique, a un écosystème extraordinaire. D'ailleurs, c'est intéressant de dire qu'il n'y aurait pas une écologie, parce qu'en fait, chaque région française est un microclimat à sa biodiversité propre. Enfin, moi, j'adore. Enfin, de toute façon, j'adore les jardins, j'adore la nature, et c'est là où je suis bien. Donc, je suis vraiment écologiste au sens, comme le pape l'avait dit, un écologiste intégral, et je l'ai appliqué un peu dans ma vie, vous avez bien compris.
Oui.
C'est que le respect de la vie, ça démarre, je pense, sur les animaux, ça dépend sur les arbres et les fruits, et aussi sur l'enfant à naître. C'est peut-être ça qui nous sépare, c'est-à-dire que l'écologie politique a coupé le lien entre la nature et l'homme. Elle a dit, la nature, on la défend, on la protège. L'homme, en fait, on l'exclut. Alors que l'écologie intégrale, telle qu'elle a été conçue, je pense à intégrer l'homme au sein de la nature.
Oui.
Mais dans tout ce qui est beau et dans tout ce qui est l'homme respectueux de la nature. Et c'est vrai que moi, je fais partie des gens vraiment écologistes. Donc, même si je ne suis pas exemplaire, et honnêtement, je mets toujours l'humilité en premier, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais voilà, j'ai vraiment une attention poussée des arbres... des fleurs, des animaux, voilà, c'est quelque chose qui m'habite, on va dire ça simplement, voilà.
Tout à l'heure, vous évoquiez les difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que ça s'est passé au début ou plutôt dans un deuxième temps, ces difficultés-là? Parce que...
Non, au milieu. Ouais. Au milieu. Ouais. Non, le début, on est très aidé par l'État. Je vous dis, on a un État formidable. En fait, honnêtement, il y a tout fonctionne. Il faut juste avoir un peu de joie et de dynamisme. Non, au début, tout fonctionne parce qu'en fait, c'est assez facile. L'État vous couvre, vous avez l'AC ou je ne sais pas quoi, vous avez 16 mois, 18 mois, vous êtes aidé. Vous êtes payé quand vous créez votre boîte, l'État vous verse une rémunération le temps que votre entreprise se développe.
Donc oui, ça... c'est pas tellement l'État, c'est les cotisations des entreprises.
Ouais, voilà. on est d'accord. Alors l'État s'est débrouillé pour aller prêter sur les entreprises des aides qui servent aux entreprises. Donc je dis, profitez-en, puisqu'ils vous pompent un paquet d'argent, reprenez-le en créant des entreprises. Tout à fait.
Et ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'il y a une époque où on ne pouvait pas. Donc, c'est relativement récent, je ne sais pas de quand ça date.
Je dirais que
c'est
10-15 ans au moins. Mais en tous les cas, il faut profiter de cette opportunité, et puis après ça marche pas, c'est pas grave. Non, moi j'ai eu deux grands échecs. D'abord, j'ai raté mon permis remorque. En fait, j'ai passé mon bac pro.
Vous avez un problème avec le permis, vous, j'ai l'impression.
Ouais, j'ai une vraie difficulté. Et c'est quoi, ça marche de pair.
Vous conduisiez sans permis, je crois, en plus.
Ah oui, d'accord, vous êtes au courant.
À quel âge? J'ai 12 ans, 3... 14 ans, non?
Alors, j'ai toujours aimé beaucoup les voitures. Donc, j'ai appris à conduire très jeune sans permis. Ouais. Donc, ce qui m'a valu 2-3 allers-retours au commissariat. Et surtout, après, je me suis fait piquer mon permis. Parce que voilà, j'ai la chance d'avoir une Bentley et donc ça va très vite. Ouais. Et donc, on me l'a retiré. En fait, j'étais un peu naïf, peut-être, je ne regardais pas mes points. Et donc, j'ai été très vite. Voilà. Donc, je n'ai plus de voiture et j'étais sans permis pendant 6 mois, 1 an. Donc voilà. Et pour revenir au jardin, non, après, j'ai voulu passer mon permis remorque. Ça, c'est le plus grand échec de ma vie, mais comme quoi, on en a encore. Et en fait, c'est hyper dur de faire un permis remorque. Vous devez faire en marche arrière et en slalom et vous arrêter sur une ligne.
Oui, c'est ça.
Et j'ai jamais réussi. Et je passais mon examen avec des gitans. Il fallait les voir, les gars, ils étaient là. Je dis, facile, je vais faire pareil. Une fois, deux fois, trois fois, impossible. Et du coup, j'ai été recalé, ils m'ont dit, vous êtes trop nul. Je suis rentré dans les plots, j'ai explosé la remorque. Non, vraiment, j'ai jamais.
Du coup, vous n'avez pas eu le permis remorque?
Jamais, j'ai jamais eu le permis remorque. Par contre, j'avais mon cassette mini-pelle. Oui. Là, j'étais très bon. Oui. Mini-pelle, j'adore. J'adore.
Expliquez aux auditeurs ce que c'est qu'un cassès.
Pardon, cassès mini-pelle, en fait, maintenant qu'on faisait des machines, bon, ça, c'est tout ce que j'aime dans mon métier aussi. En espace vert, il y a la nature, mais il y a les machines. Bon, on est un garçon, quoi. Et donc, quand vous avez une machine, on vous demande maintenant une autorisation de conduite. C'est avoir un peu le B.A.B.A. de comment marche la mini-pelle, quoi. Oui. Pour pas qu'elle se renverse, pour pas taper quelqu'un, pas écraser, etc.
On a ça pour les chariots élévateurs.
Exactement. Donc, vous avez ça pour les chariots élévateurs, pour les fans, pour plein de trucs. Oui. Et donc, sur la mini-pelle, c'est pareil. Donc, c'est une formation, il faut faire son cassès et on vous teste sur est-ce que vous êtes capable de bien faire votre trou, bien mettre la terre dans la benne sans tout péter, si vous tournez bien, etc. Donc ça, par contre, j'ai eu sans difficulté mon cassès, mini-pelle, et mon bac pro aussi, j'étais assez fier, parce que pour moi, c'était beaucoup d'apprentissage.
Oui, parce que il y a un truc particulier chez vous, c'est que vous avez fait les études dont on a parlé tout à l'heure, les DEC, et puis vous avez travaillé, et quand vous avez décidé de vous lancer comme chef d'entreprise... Vous avez décidé de passer à un bac pro dans le domaine
du paysage.
Mais ça, c'était juste avant de créer l'entreprise ou juste après l'avoir créé?
Non, c'était juste avant parce qu'en fait, que je suis quand même un peu prudent. Je m'étais dit, j'ai cette passion. Ouais. Je maîtrisais vachement les sujets, moi, parce qu'on est aussi de la Savoie. Et donc, en Savoie, j'ai toujours abattu les arbres, les pins principalement. Donc, on est assez bûcherons. Donc, moi, j'adore monter dans les arbres et les débiter. Et donc, je m'étais dit, j'adore ça, mais est-ce que ça peut être un métier? Donc, je me dis, je me forme 6 mois et je passe mon bac pro parce que j'ai besoin d'appréhender le monde humain. Donc, j'étais avec des adultes en formation comme moi, extraordinaires. J'ai fait des belles rencontres, vraiment extraordinaires. Et après, je me suis dit, il faut aussi que je maîtrise, parce qu'il y a une crédibilité quand les gens vous appellent. C'est super, vous avez ton de ma pelouse, mais comment là, vous mettiez des arbres, mais lesquels? Donc, il faut un peu de reconnaissance des végétaux. Il faut savoir quels sont les végétaux qui collent avec une terre acide, une terre grasse, tout ce qui est terre de bruyère. Typiquement, ce sont des végétaux qui sont importés, donc ça ne dure jamais longtemps. Mais voilà, et donc, il fallait avoir ça. Et une fois que j'étais convaincu que c'était ma piste. En fait, en même temps, j'ai créé le début de l'entreprise. Voilà. Donc, c'était concomitant. Voilà.
Et vous l'avez fait avec votre frère?
Oui, avec mon frère Gauthier, qui lui avait cette même passion du paysage, mais plutôt au niveau du dessin.
Oui. Donc, voilà. Vous complétiez comment, alors, en fait, dans l'entreprise?
Alors, lui était plutôt sur la partie commerciale. Ouais. Et lui, il a vraiment un talent sur la partie conception, écoute, et très lié à l'immobilier d'entreprise. Donc, lui, vraiment, son savoir-faire, c'était toute cette partie un peu... promotion, création d'espaces verts, alors que moi, j'étais beaucoup sur l'entretien. Donc, l'entretien, c'est vous avez des jardins, des abonnements, ça va vous parler. Et du coup, vous passez régulièrement dans le jardin et puis vous le voyez au fil des saisons. Moi, j'adore ça. En fait, j'aime bien tout ce qui est régulier et qui évolue. Et en fait, on voit l'œuvre de votre travail, comme la création. Mais moi, c'était moins mon ADN, alors que c'était celui de mon frère.
Voilà. Et en hiver, il y a de l'activité aussi?
En hiver, on plante. Oui. C'est-à-dire que c'est comme l'agriculture. L'été, en fait, il n'y a pas d'eau. Donc, l'hiver, on garde toutes nos plantations et on les plante à partir de d'octobre, de toute façon, il gèle plus en France. Ouais. Ça a échappé à Trump, mais il y a quand même un dérèglement climatique.
Ouais.
On n'a plus de gel, et donc du coup, on peut planter évidemment à l'automne et un peu le début d'hiver.
Ouais.
Et puis là, on y va, et puis après ça,
ouais,
ça repart vite.
Donc il n'y a pas de chute d'activité. Vous
non, il n'y a pas de chute d'activité. Alors au niveau masse de travail, il y en a moins l'hiver. Ouais. Mais tout l'astuce, c'est de garder l'équilibre l'hiver et l'été.
Ouais.
Voilà, l'été, on ne plante plus maintenant, il fait trop chaud, ça meurt, sauf si vous avez de l'arrosage automatique. Mais...
Oui.
Donc voilà. Bah là, je vous parle d'un métier, attention, hein, on est parti sur les jardins, donc on est loin de valeur actuelle.
Et là, mais... vous me disiez que quand vous avez démarré votre entreprise, ben, vous avez démarré en étant vous-même productif. Hein,
oui.
C'est-à-dire que c'est vous qui avez été tondre les pelouses, tailler les haies,
oui,
avec vos premiers clients.
Oui, il y a longtemps, je fais ça pendant un an.
Vous les avez conquis comment, vos premiers clients?
Bah, début, comme
le
tout bon créateur.
Vous vous
rappelez? Bah, c'est souvent nos amis.
Oui.
Nos amis, notre famille. Et après, moi, j'ai eu aussi encore la chance. Et encore, là, je remercie ces histoires professionnelles. C'est Sodexo qui a été très bienveillant. C'est-à-dire que c'est mis à un moment dans les grandes entreprises qu'on appelle le facilities management.
Oui.
C'est-à-dire que les entreprises délèguent l'ensemble de leurs services. Elles se concentrent sur leur métier. Donc, par exemple, Sodexo, c'est la restauration. Alors, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, je ne sais rien, Safran.
Oui.
Voilà, c'est les moteurs. Donc, tout le reste est sous-traité. Voilà. Et dans ces sous-traitants, Sodexo dit, moi, je peux tout faire. La restauration, le nettoyage, les espaces verts. Il fallait trouver des partenaires. Et donc, ils m'ont appelé en disant, Benjamin, tu crées ta boîte. Donc, vas-y, viens, démarre avec nous. Et donc, du coup, ça a lancé aussi les premiers clients.
C'est sa première
expérience. Pareil, encore de belles relations, de gens. En fait, on est peuplé en France de gens bienveillants qui aident. Et moi, je dis toujours à ceux qui créent les boîtes, partez quand même avec un ou deux clients qui vont vous accompagner, vous aider. Le premier client, finalement, c'est quelqu'un qui prend un risque avec vous par générosité, par goût du risque aussi. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui n'existe plus en France. Les entrepreneurs, c'est des gens qui prennent des risques. Et donc, il faut y aller avec des gens qui ont envie que vous preniez ce risque et qui vont dire allez, on joue le jeu avec toi. Voilà. Et c'est souvent nos premiers clients, hein. C'est nos amis, les gens qui prennent un risque, nos collègues. Oui. Donc voilà.
Pas toujours les amis d'ailleurs, parce que, ou ceux qui sont proches, parce qu'ils ne pensent pas toujours qu'on a besoin de vivre aussi. Et parfois, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans notre environnement et qui nous font confiance et on découvre de belles personnes. Vous y faisiez allusion tout à l'heure.
Oui, vous avez raison. Après, j'aurais tendance à dire. Il vaut mieux pas trop forcément travailler avec ses amis parce qu'après ils ont une exigence que parfois on peut pas répondre et ça complique les choses.
Vous en parlez le week-end et
voilà. Moi j'ai l'impression, soyez bon dans votre métier, soyez au bon prix, ayez la bonne technicité, soyez réactif. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours le. Je pense que les États-Unis sont un bel exemple souvent de performance économique. Ne lâchez jamais l'attention portée aux clients. Et quand je dis clients, au début c'est peut-être 2-3 amis, mais après ça doit être des gens qui en fait ont besoin de votre service. Donc ils veulent un mec nickel qui parle bien. Bah, moi, au début, c'était plutôt facile.
Oui.
Parce que dans les jardins, entre deux clients, vous avez Benjamin Lacombe qui arrive, qui avait fait les decks. Bah, je n'avais pas la même approche quand on allait voir, je sais pas, le comte et la comtesse ou même un siège d'entreprise. Vous avez le siège de Renault, vous savez vous comporter face à un acheteur. Donc, vous voyez tout ça. C'est une valeur ajoutée qu'il faut garder, et puis après, que vous faites grandir. Quoi.
Oui, cette culture générale de base nous sert quand même toute notre vie. Hein.
Ouais, on est d'accord.
On doit faire une pause pour Bobino. Est-ce qu'on est à peu près dans le timing pour la faire? Je vous rappelle que nous sommes au Libre Journal des Entrepreneurs et que nous avons la chance d'accueillir Benjamin Lacombe, nouveau président de Valeurs Actuelles.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs, nous reprenons avec Benjamin Lacombe, qui s'écrit en deux mots, là, plus loin, combe, hein, je
exactement,
le précise, qui nous a beaucoup parlé de sa première expérience significative en tant qu'entrepreneur, puisqu'il s'agissait de l'entreprise Mugo, qu'il a accompagné pendant 12 ans avec une très très belle croissance dans le domaine des espaces verts. Alors, c'était très intéressant, mais nous avons peu de temps, donc nous allons passer à sa deuxième expérience,
déjà bien.
Qui se présente en fait, qui se profile, puisque c'est le tout début, et on va
plutôt que de parler de responsabilité d'entrepreneur dans cette deuxième expérience, plutôt parler du projet, des raisons de cette démarche, de la, peut-être la stratégie. Alors, on va, bien entendu, pas dévoiler des choses qui sont confidentielles, mais dans la mesure de cette, du respect de cette confidentialité, ce que je vous propose, c'est de nous dire déjà pourquoi vous vous êtes intéressé à Valeurs Actuelles. Qu'est-ce qui vous a amené, vous qui étiez entrepreneur dans les espaces verts, à vous intéresser à un média de cette dimension? Comment ça s'est enchaîné tout ça? Qui a été l'origine?
Alors ça, c'est une bonne question. Ou parfois, je me la pose encore. Non, je pense que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était la notion de responsabilité. Parce qu'en fait, c'était, donc, vous avez compris que l'ancien actionnaire est décédé. Et donc, il fallait trouver, je pense, un sujet ou en tous les cas, des investisseurs français ou des patrons français qui aient envie de s'emparer de sujets politiques. Alors, c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu la mode. Et moi, ça participe des choses sur lesquelles j'aurais tendance à appeler aujourd'hui les patrons. C'est que je pense qu'on est trop resté peut-être cantonné dans nos univers professionnels. Et donc, en fait, il y a un moment où il faut se dire, bah, en fait, si on a pu créer ces entreprises grâce à l'État, grâce à ses collaborateurs, enfin, grâce à un écosystème français, il y a un moment où il faut qu'on s'empare de cet écosystème parce qu'on l'a laissé. Et moi, c'était vraiment ma conviction aujourd'hui. On l'a laissé entre des gens qui sont aussi merveilleux. Enfin, moi, je rencontre, voilà, que ce soit des hommes politiques ou médiatiques. Enfin, chacun a vraiment porte à la fois son charisme et sa vocation. Mais néanmoins, quand je leur parle de l'entreprise, on n'est plus dans les mêmes mondes. Et donc, je me suis dit, bah mince, il va falloir qu'on trouve un moyen, nous, les chefs d'entreprise, ou nous, les actifs, d'où les actifs aussi anonymes, de commencer à expliquer ce que l'on vit pour qu'ils s'en emparent. Et puis, peut-être demain, avoir des hommes d'entreprise qui soient capables de gouverner l'État français, d'avoir des ingénieurs ou des polytechniciens qui soient capables d'intégrer cette fonction publique, parce qu'on voit qu'elle dérive doucement vers une logique administrative. Et Valeurs Actuelles arrivait là, et en fait, c'était un peu l'adéquation entre, bah, ok, c'est un nouveau job. Il y avait aussi un défi, parce que c'est un journal qui avait eu ses difficultés, il y avait eu un peu des esclandres. Je crois que Geoffroy Lejeune était parti au JDD, donc il y avait Vincent Bolloré qui créait son groupe de presse. Donc il y avait un écosystème aussi favorable avec... ben voilà, il y a un challenge, il y a une responsabilité d'entrepreneur, il faut remettre les comptes à l'équilibre, il faut redonner du champ à ce journal, une pérennité dans le temps, parce qu'elle était quand même abîmée, et puis c'est une très belle marque. Et donc voilà, donc on s'est dit, bon, ben alors allons-y. Et après, moi, je ne voulais pas le faire tout seul. Et donc, Pierre-Edouard gentiment m'a dit, ben écoute, il y a ce dossier, est-ce que tu veux venir? Donc j'ai dit, ben, avec joie. Après, il y avait un autre actionnaire qui s'appelle Alexis Caude, qui lui dit bah super, on est partant. Et donc voilà, donc c'est un projet collectif un peu au service du pays, en se disant bah voilà, c'est notre responsabilité en tous les cas de tenir et de maintenir ces journaux. Et puis bah, alors, par contre, c'est un énorme boulot, hein. Et là, on est dedans. C'est le remettre dans le flow actuel, donc qui est digitalisé, médiatisé. C'est beaucoup de la vidéo, c'est moins de l'écrit. C'est passer d'un journal qui est quasiment que papier en un journal digital. Donc ça va être la première transformation, si c'est ça qui est intéressant. Et vous avez compris que la deuxième, c'était aussi l'intuition des lecteurs du début. C'est qu'on pense que le journal est devenu trop politique. Et en fait, aujourd'hui, on a une sorte de lassitude aussi des lecteurs. Et donc, on va revenir doucement, à juste mesure, hein, à ce qu'était Valeurs Actuelles avec Raymond Bourgine, qui est le fondateur de Valeurs Actuelles, qui avait fait d'abord une revue financière. Et donc, nous, nos lecteurs disent, ben nous, en fait, on était aussi intéressés par la bourse, le patrimoine, nos successions, comment gérer notre argent. Et ça a disparu du journal. Donc, l'idée, c'est de le ramener.
Et vous ne pensez pas que les électeurs qui, justement, prennent ce journal parce qu'il y a des articles politiques risquent d'être surpris si le journal devient trop économique ou trop financier?
Si, si. Mais alors, quand je vous dis que trop économique ou trop financier, non, ça sera une partie du journal. On reste très conservateur. Mmh. Et au contraire, on veut plutôt marquer l'accent sur la marque Valeurs Actuelles qui a toujours été très légitime à droite, qui a été toujours très offensif. Et c'est garder cet esprit quand même offensif, critique vis-à-vis du gouvernement. Moi, je dirais juste peut-être... Dans l'éditorial, c'est de réussir à être moins caricatural et peut-être un peu plus source d'espérance. Mais ça appartient aux équipes de direction, ça appartient aux rédacteurs en chef. C'est comment transformer ça pour être un outil de reconquête, de... En fait, il y a plein de... Moi, je fais partie de cette génération où je vois tous les fruits aujourd'hui qui poussent en France et qui changent le pays. Et en fait, j'ai envie que le journal en soit. Parce qu'en fait, il y a tellement de sources d'espérance, de petites lumières là qui s'allument à droite à gauche, de jeunesse motivée, même dans les patrons, tout le monde se dit, bah, en fait, on a une responsabilité au niveau national. Et donc, en fait, il y a toute cette espèce d'écosystème dont il faut qu'on s'en empare pour nourrir le journal.
Oui. Alors, je pense effectivement que vous mettez le doigt sur une difficulté qu'on a dans les médias, parce que par sensibilité politique, on a tendance à écouter les médias qui correspondent à cette sensibilité politique. Ouais. Mais bien souvent, on assiste à une critique un peu systémique, hein, qui est nécessaire parce qu'il faut que les gens prennent conscience d'un certain nombre de réalités. Mais le côté positif que vous évoquiez, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à mettre en valeur dans ce domaine, est beaucoup moins évident. Et du coup, effectivement, ouais, ça crée de la lassitude. Même quand on écoute des choses qui nous font plutôt plaisir, il y a ce phénomène de lassitude qui risque de se présenter.
Moi, je pense que honnêtement, ça, c'est plutôt le job des rédactions, mais je suis convaincu et je vois ce qui existe à droite. On parle du Salon Beige, on peut parler de Bouvard Voltaire. Il y a quand même un esprit qui marche bien aujourd'hui, qui est l'esprit un peu de conquête.
Oui.
Il y a l'esprit d'un peu de désespoir. Oui, tout va mal, mais il y a aussi, il y a des choses qui vont mal. C'est une réalité, il faut les nommer.
Oui.
Et ça, effectivement, on dit souvent, ça fait vendre parce qu'on dénonce. Mais de l'autre côté, il y a un autre truc qui fait vendre, c'est l'esprit de reconquête. C'est regardez, ça va mal, mais regardez ce qui bouge.
Oui.
Et ça, c'est très Bouvard Voltaire. Oui. Bouvard Voltaire, ils vont aller dire, regardez. On lutte là, on lutte là, on lutte là, on est là, on est là. Et ça, en fait, c'est ça aussi qui fédère, je pense, les gens. Et après, moi, je suis convaincu que Valeurs Actuelles, il y a aussi une communauté attachée à la marque, attachée à cette histoire de France, à cette revue. Et ça, c'est des gens qu'il faut qu'on adresse pour qu'eux, ils reviennent au journal, qu'on rajeunisse un peu. Ouais. On a un sujet de pyramide des âges. Donc, il faut aller chercher aussi des attentes des gens qui ont mon âge. Moi, j'ai 50 ans. Qu'est-ce qu'on attend d'un journal? Donc, je me mets dedans. Moi, je suis plutôt, vous avez compris, joyeux, optimiste. Et j'ai l'impression qu'on peut faire tout. On peut déplacer des montagnes. Enfin, c'est très évangélique, mais d'autres ont réussi avant moi. Et donc, il faut y aller, quoi.
Oui.
Par contre, effectivement, il y a une autre tendance à droite qui est assez pessimiste, qui dit tout fout le camp. OK, tout fout le camp, alors redressons-nous.
Oui. Voilà. Alors, ça fait penser au journal L'Incorrect, qui a cette qualité aussi de mettre en exergue de belles figures
tout à fait.
Auxquelles on ne s'attend pas, hein, tout en étant très critique lorsqu'il le faut, et d'une manière plutôt humoristique d'ailleurs, ou sarcastique, mais c'est sur un ton en tout cas très libéré. Hein. J'imagine que c'est quelque chose qui vous inspire.
Alors, ça, c'est un autre truc aussi qui est top, c'est qu'en fait, ça y est, enfin, et tout le monde le dit, alors on peut le regretter au niveau de la concurrence, mais en fait, on a un écosystème médiatique à droite qui est très fort. D'ailleurs, il suffit de voir comment les gens s'acharnent aujourd'hui sur CNews, mais vous avez effectivement Frontières.
Récemment, qui est devenu très fort, parce que pendant des années, on avait la parole unique.
La force de Vincent Bolloré, c'est que finalement, et ce qui est quand même extraordinaire dans une démocratie, il amène une voix un peu dissonante, et en fait, on voit que ça énerve tout le monde. Et en soi, j'aurais tendance à dire, c'est le principe même d'une démocratie, d'avoir des avis différents. Après, les gens sont intelligents, ils savent faire la part des choses quand... CNews dérape, etc. Donc, il faut laisser la liberté aux gens de l'écouter ou pas. D'ailleurs, c'est une chaîne privée. Ça, souvent, le gouvernement l'oublie parce qu'ils ont une logique typiquement administrative. Ça, c'est encore un vrai sujet. Il va falloir qu'on arrive à lutter contre cet esprit toujours de contrôle. C'est une espèce d'État parfois un peu communiste, administratif dans sa forme, interventionniste. Et on a un bel écosystème, je trouve, médiatique avec aussi beaucoup de créativité. Et ça, vous voyez, c'est encore un des fruits. Je trouve, de notre époque, il y a Amen Media pour l'évangélisation, vous avez Frontières pour l'immigration, vous avez L'Incorrect, vous avez Valeurs Actuelles, vous avez le JDD, vous avez Europe 1, vous avez Radio Courtoisie qui a changé sa mue, je vois que le studio est neuf et que les personnes sont nouvelles. Donc vous avez tout cet écosystème, marche bien quoi. Il y a de l'innovation, il y a de la créativité, ça oui, c'est des choses qu'il faut sentir, parce que c'est pas un hasard si le gouvernement ou les gens en place ont peur. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la créativité, la dynamique, elle est là. Et donc, il faut la porter. Par contre, moi, j'ajouterais juste une petite chose dans cet écosystème de droite, c'est qu'il faut qu'il s'ouvre le maximum. Et moi, j'ai toujours cette tendance très libérale. Et je dirais que je suis très heureux avec les entrepreneurs qui ne sont pas forcément conservateurs ou qui ne sont pas forcément sur cette dynamique française un peu d'extrême droite, pour ne pas la citer. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à leur parler. Je vous ai dit que je fais aussi avec Martin ces nuits là, à l'Hôtel Dieu. Et en fait, il faut qu'on arrive quand même à parler à tout le monde. Moi, j'ai une vie où j'ai vécu avec des jardiniers.
Alors, parlez-nous de ces nuits. Je fais une petite parenthèse sur ces nuits à l'Hôtel Dieu. J'aimerais bien que vous nous en disiez deux mots.
En fait, l'intuition, en tous les cas, de Martin, c'est le fondateur de l'APA, l'Association pour l'Amitié. C'est des colocations solidaires avec des gens un peu en précarité, mais qui ont eu un passage à vide et en fait, qui doivent être accompagnés pour repartir dans la vie, et ça marche très bien.
C'est un peu ce que fait Lazare.
C'est pareil. Lazare, c'est en province, la passe est à Paris.
D'accord. Voilà.
Donc c'est comme Étienne et Martin étaient deux amis. Et donc là, l'Hôtel Dieu, c'est encore une étape en dessous. C'est en fait, c'est là, et encore voilà, quelque chose qui est merveilleux avec l'Église. En fait, il n'y a que de la joie si on cherche bien. Donc l'Église des Blancs-Manteaux a mis à disposition pour les gens qui sont un peu paumés à la rue un lieu de vie où ils peuvent dormir dans l'église et un lieu où ils peuvent dîner tous les soirs et petit déjeuner le matin. Et donc, en fait, ce lieu est porté par Martin et le père Pop. Et tous les deux, en fait, vont dans la rue, ils vivent là, c'est leur vie. ils vivent avec eux et vont porter ces gens qui parfois n'ont pas eu ce regard ou cet accueil et vont vivre ensemble. Voilà. Et donc moi, Martin Choutet.
Et qui est Martin Choutet, c'est le fondateur
de l'APA, l'Association pour l'Amitié.
D'accord, ok. Voilà.
Donc voilà, avec qui on était au scout ensemble, donc c'est encore une histoire scout. Et alors moi, humblement, je viens l'aider une fois tous les 15 jours, parce que voilà, c'est ce qui était possible avec mon agenda, et donc je dors avec eux.
Vous
donc,
y êtes ce soir, je crois.
Ouais, c'est moi, ma règle, c'est le mercredi, tous les 15 jours, et c'est pile poil dans mon agenda, et donc je dors là-bas, et je prends mon duvet. Et voilà, et c'est vrai que c'est assez rigolo, et moi j'aime bien ça. Non, bah, je pense qu'il y a tellement de raisons de se réjouir et voilà, et d'ouvrir nos cœurs, que je pense que si, pour revenir à notre logique de la droite, si je pense cette droite qui est conservatrice, ancrée dans le pays, mais si elle s'ouvre, si elle donne ce qu'elle a de meilleur, je pense qu'elle peut honnêtement être au pouvoir, elle peut tout à fait apporter un peu peut-être ce qui manque au pays, c'est un peu cette joie, cette espérance qu'on retrouve dans l'écologie. Hein. Enfin, en fait, si on va chercher dans chaque sujet les sources de joie, honnêtement, c'est un boulevard. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment aller chercher les gens. Oui.
Pour pouvoir faire ça, est-ce qu'on n'a pas tendance à être, bien sûr, on est catalogué, mais à se cataloguer aussi en disant je suis de droite ou je suis d'extrême droite ou quoi, peu importe. Et du coup, ça nous enferme un petit peu parce que l'interlocuteur, d'emblée, a des a priori sur nous.
Ouais, alors moi, j'aurais tendance à dire, voilà, on est libre. Hein. Vous avez compris que ça m'habite. Moi, que les gens aient des avis sur moi, en fait, je m'en fous complètement. Ça fait partie de ma vie. On a tous été patrons, donc on a pris des décisions dures.
Oui, mais et ça ne permet pas d'avancer. Que... Parce que je veux dire, c'est à partir du moment où les gens ont des a priori,
alors, c'est plus oui et non. De les faire avancer. Alors, moi, je suis convaincu que c'est à chacun est donné de donner un peu aussi une partie de ses faiblesses. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que. Alors, il faudrait leur poser la question, mais ce n'est pas parce que moi, j'ai une situation assez confortable, que je suis patron d'entreprise, que je n'ai pas ma place dans mon sac de couchage dans l'église ce soir. Je n'ai pas la place à leur table. En fait, on est chacun ce qu'on est. Mais moi, là-bas, je n'y vais pas. Je ne suis pas du tout larmoyant. Hein. Moi, j'y vais en tant que patron de droite, père de famille. Oui. J'y vais pas entre socialo de base, tourné vers les pauvres. Non, ils m'acceptent comme je suis. Et je suis vraiment ce que je suis, hein, avec tous mes défauts, vraiment. Oui. Et ils le disent. Par contre, c'est des avantages. Je leur file des places de foot, je leur ai filé des places au FC. Donc, ils ont été... dans la loge au FC Paris.
J'espère que c'est pas quand ils ont battu l'OL. Parce que
non, ça a été quand on a battu Monaco, je crois.
Ils ont ça c'est bien.
et donc, non, mais du coup, et voilà, mais je leur dis, mais ça c'est aussi parce que je suis comme ça. Mmh. Honnêtement, j'ai pas vu de gens qui me détestaient, alors après, je leur demande pas, voilà, on est ce qu'on est, et après l'autre, sincèrement, à partir du moment où moi j'ai compris, je suis jardinier.
Oui.
Si vous dites ce que vous êtes, en fait, le mec il dit ce qu'il est, et évidemment, on trouve des ponts. Et l'écologie, honnêtement, on est tous sensibles quand même aux gens qui crèvent dehors, même s'ils sont tous immigrés. Voilà. Alors après, on va dire, ouais, machin. Bon, non, ils sont là.
Oui.
On fait, on agit, on est patron, quoi.
Oui. Mais c'est pour ça que ces étiquettes sont gênantes. Aujourd'hui, quand on vous dit, vous l'assumez bien, vous êtes de droite, c'est quoi être de droite?
Alors pour moi être de droite, et c'est là encore où on va revenir sur la liberté, moi je suis vraiment vraiment libéral, pour moi j'ai une confiance folle dans l'individu, je suis que chaque homme a un talent, vous savez il y a des soirées là, la soirée des
libéral
talents.
Mais pas libéraliste,
non libertarien, moi je suis très libéral dans le sens où je pense que est donné à l'homme une grande capacité, de multiples talents, et il faut qu'il les révèle pour se réaliser. L'État peut l'accompagner pour se réaliser, mais c'est l'homme qui va se réaliser, c'est pas l'État qui va prendre la main sur l'homme. Et donc ça, c'est la réalité, et moi, après, je suis vraiment entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir le goût du risque, et moi, je pense que peut-être le conservateur n'a pas assez ce goût de risque. En fait, il faut prendre des risques, aller voir l'autre qui est différent, c'est prendre un risque. Mais moi, je vais vendre quand je rachète Valeur Actuelle. Les mecs disent, ah ouais, t'es machin, t'es bidule. Mais en fait, les gens, ils ont cet a priori, ben super. En fait, ils n'ont pas compris que moi, je suis actionnaire. Donc, en fait, je suis multiple. Et vous-même, j'imagine, vous êtes multiple. Qui peut définir ce qu'est une personne? Par contre, je vois que les gens qui aiment bien enfermer, souvent, ce sont des gens assez fragiles. Ou alors des gens blessés. Et moi, du coup, je ne porte plus trop de jugeance qu'avec les gens, quand je dis, ouais, t'as racheté Valeur Actuelle, t'es un facho. En fait, je me dis, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a été profondément blessé, soit par une parole pas ajustée, soit par une histoire personnelle où il s'est senti... Je ne l'excuse pas. Hein. Mais en fait, du coup, j'y mets pas mal d'indulgence parce qu'en fait, le monde est fait comme ça. Et en fait, moi, j'ai cette capacité, parce que peut-être c'est mon histoire, à aller d'un monde à l'autre avec toujours la même joie, parce qu'en fait, je cherche l'homme et le cœur de l'homme et je ne cherche pas son appartenance, sa fortune. Voilà. Et donc, en fait, moi, je donne souvent, c'est ce que je suis. Et en face de moi, ouais, j'ai des gens qui ont des comportements, mais... je leur en veux même pas. En fait, c'est tellement, c'est tellement humain. Parfois, j'ai l'impression que c'est comme nos enfants, finalement.
On le comprend beaucoup de la part de personnes qui ont des itinéraires de vie différents. Il faut aussi se mettre à leur place. comprendre que quand on n'a pas eu le même itinéraire, c'est difficile de se comprendre, justement. Et donc, il faut créer des passerelles pour pouvoir le faire.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je revenais à ces notions. Enfin, moi, je suis toujours en réaction très forte dès qu'on catalogue les gens, par exemple, d'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire être extrême? Chacun a ses idées. Les idées étant différentes, pourquoi en classer certaines? À ce moment, tout le monde est extrême, même au centre.
C'est le jeu de LFI. Après, j'aurais tendance à dire que les gens ont besoin certainement de se rassurer, et donc moi, je me mets dedans. Et en fait, c'est assez facile. Parce que du coup, en fait, d'abord, vous nommez l'ennemi quand vous n'aimez pas l'extrême. Moi, je trouve que être à l'extrême droite, ce n'est pas négatif. Enfin, on parle d'ultra-droite et tout, c'est des termes plutôt assez élégants. Après, moi, je n'ai pas forcément un avis politique abîmé, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'admiration pour, par exemple quand je vois Jordan Bardella, je me dis il a 28 ans, le mec il est là, il est candidat à la présidentielle, vous imaginez le talent qu'il faut, et là c'est plutôt le patron ou le père qui parle en disant mais voilà, si j'avais, alors je souhaite d'avoir des enfants, mais si j'avais un fils, voilà, qui a 28 ans, dit voilà, mais après on a Attal, t'as Gabriel Attal, 33 ans Premier ministre, alors on peut dire oui, on n'aime pas ses... peu importe, mais quel talent, vous connaissez vous un gamin, enfin à 33 ans, qui est capable d'être Premier ministre, alors on va dire il n'est pas resté longtemps. Ok, c'était peut-être nécessaire. Et ça peut révéler autre chose. L'absence d'homme politique pertinent ou l'absence de discernement d'Emmanuel Macron. Mais peu importe, le personnage fait que moi, j'ai un respect profond pour un Gabriel Attal, pour un Jordan Bardella. En fait, je m'émerveille devant d'abord leur talent, et après, Charles Lalonde, mais quel talent! Mais quel talent ce jeune-là à HEC. Enfin, alors après, on peut les critiquer, ils n'aiment pas machin, mais moi, je trouve des talents. Pareil, vous avez compris que je suis un peu écologiste, donc... voilà, je trouve que l'écologie a sa place, elle n'est pas toujours bien portée, mais bon, on ne peut que admirer, je trouve, chez l'autre, finalement, le talent qu'il met en œuvre pour défendre la cause auquel il croit.
Oui, alors, moi, la limite que je mettrais à ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le système politique accouche d'un certain nombre d'élus, talents ou pas talents, qui vont exercer des fonctions avec des résultats ou une absence de résultats. Et on peut être très talentueux, probablement que Emmanuel Macron est très talentueux dans son domaine, ça a été un banquier, etc. Mais les résultats sont archi mauvais. Oui. Et donc, moi, le côté brillant sur le plan intellectuel, dans l'expression orale, je ne sais quoi, s'efface. Il y a des gens silencieux, peu talentueux apparemment, et qui ont fait des choses énormes et extraordinaires dans la vie. Donc, moi, je pense, contrairement à vous, que le système aujourd'hui est un système qui est complètement dévoyé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne désigne pas des personnes, vous parlez de responsabilité, responsables pour assumer leurs fonctions parce qu'ils ne seront pas sanctionnés. Un entrepreneur, quand ça ne marche pas, il dépose le bilan, il est sanctionné. Et encore, il peut redémarrer une activité derrière, s'entraîner ça toute sa vie. Un président de la République, il finit son mandat, il est assisté jusqu'à la fin de sa vie, même s'il a fait les pires erreurs.
Il y en a qui finissent en prison, je vous rappelle.
Alors oui, c'est relativement rare quand même, mais c'est pas forcément là. Bon. Mais puis ça dure pas longtemps. Mais globalement, il y a ce problème de responsabilité qui fait défaut dans le système politique, et le problème aussi de compétence. Parce que quand on voit des assemblées nationales qui se prononcent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas ou une petite partie d'entre eux le connaissent et qui vont décider à la place des personnes professionnelles dans ce domaine-là, il y a quand même une vraie réflexion à avoir sur le fonctionnement de nos institutions. Dans une entreprise, vous ne prenez pas une décision, vous ne réunissez pas trois personnes si elles ne sont pas compétentes et responsables pour décider. Et là, vous réunissez des centaines de personnes qui n'ont ni cette compétence ni cette responsabilité et surtout pas le souci du financement. Vous voyez,
Ça, je suis d'accord.
Donc, vous ne pouvez pas dire que les gens ont du talent s'il n'y a pas une conséquence personnelle sur eux, sur leur carrière, derrière, quand ils proposent des mesures qui sont totalement inapplicables. Je vais prendre juste un exemple. Ouais. Je sors complètement du cadre, mais moi, c'est un truc qui me révolte à titre personnel, donc j'en profite pour
exprimer. Vas-y, j'écoute.
C'est que Macron a donné un congé parental paternel de 24 jours ou 28 jours, alors qu'on est en déficit chronique à la sécurité sociale. Vous vous rendez compte de l'ineptie des décisions qui sont prises?
Je crois que c'est Robert Berger.
Bon, peu importe.
Emmanuel Macron n'a toujours pas d'enfant, je crois.
Non, mais en tout cas, c'est son gouvernement et c'est sa décision.
Ouais.
Et donc, on est capable... je ne parle même pas du fond. Je vais parler que de l'aspect économique, qu'on pourrait parler du fond aussi. Mais on est capable de prendre des décisions comme ça, alors qu'on a un déficit abyssal, et qu'on ne se pose jamais la question de savoir comment on va traiter notre déficit. On se la pose en théorie, mais en pratique, quelles mesures de gestion de bon père de famille sont prises, quels que soient les sujets. J'en donne un, il pourrait y en avoir 50 000 comme ça.
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça fait 40 ans qu'on a aussi. Là, j'ai vu, c'est ce que je disais. Alors, pareil, je vais revenir sur mes débats sur BFM Business. Mais c'est vrai que là, nous, on fait une pétition sur le zéro déficit dans la Constitution. En fait, il y a deux analyses. Donc, la première, c'est de dire effectivement, ça va pas et ils sont pas très bons. Moi, je vois plutôt des gens assez doués. Par contre, je suis d'accord avec vous que ça manque de diversité. Moi, j'aimerais, et c'est une des appels que je fais régulièrement maintenant, que ce soit à BFM ou dans les patrons, c'est prenez vos responsabilités, c'est-à-dire que vous, chef d'entreprise, allez en politique. Arrêtons de laisser la politique à des gens qui en ont fait leur métier et en fait qui n'en ont plus les compétences. Mais après, je leur en veux pas dans le sens où le monde va tellement vite qu'en fait, la structure politique ne peut pas suivre l'évolution de la société ni du monde. Donc en fait, ils s'accrochent à des lois sociétales souvent en comprenant rien. Et d'ailleurs, moi, c'est rigolo parce que comme moi, je parle beaucoup entreprise et je rencontre beaucoup de chefs d'hommes politiques, en fait, on parle chinois pour eux. On parle chinois. Quand vous dites qu'il y a 70 milliards de remboursement de taux d'intérêt, ça vous gêne pas, c'est le budget de la défense, bon, en fait, ils disent bah non. Alors vous imaginez, pour un chef d'entreprise, avoir 70 milliards juste en remboursement d'intérêt, bah en fait, on se dirait, non, mais c'est de la folie, il faut réduire notre dette, et puis ces 70 milliards d'intérêt, ils seraient peut-être plus utiles à la défense, à l'éducation. Bah non, eux, ça leur pose aucun problème. Ils continuent comme si de rien n'était. Et c'est vrai que moi, je me suis dit deux choses. Je me dis, bon, bah, ils sont comme ils sont. Donc ça, c'est moi, j'ai toujours ce côté un peu entrepreneur en disant, bon, bah voilà, à nous d'agir. À nous d'agir. La deuxième chose, à nous de les former. Et donc, c'est pour ça que je fais ces petites soirées de la liberté avec Mickaël en disant, bah, le libéralisme est quelque chose de bon parce qu'en fait, il responsabilise les gens. Et après, peut-être qu'on a un autre sujet, mais là, qui est peut-être plus profond, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans notre état-providence, qui est quand même très généreux, où tout le monde bénéficie. Donc, les si congés maternité, les machins, les bidules, est-ce qu'on est prêt à renoncer à ben, oui, avoir la prime de rentrée, avoir le chèque culture, avoir 18 mois d'assédic, avoir un congé mat? Qu'est-ce que collectivement on est prêt à renoncer? Est-ce qu'on est prêt, moi je l'ai dit ça, à baisser les retraites, qui sont le premier pense de dépenses de l'État? Et donc on a fait un sondage avec l'IFOP, moi j'ai dit, ben, je pense qu'il faut arrêter de dire des indexations. Non, on va baisser les retraites. On va baisser les retraites. Donc, messieurs et madame les retraités, vous avez paumé 10% de votre retraite. Et ça, c'est pas demain, c'est tout de suite. Oui. Vous voyez ? Et là, vous remettez l'État. Est-ce qu'on est prêt collectivement à le faire ? Et en fait, souvent, les gens disent oui pour l'autre. Et pas. Et ben moi, je dis non, en tant que patron, ma responsabilité, mais c'est un esprit de patron, c'est de dire, OK, on va baisser les retraites, on va baisser le congé mat, on va baisser les assédiques, on va baisser les arrêts maladie et on va rétablir un budget à l'équilibre. C'est hyper simple à faire. Il faut juste une volonté politique. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas les hommes politiques pour le faire.
Oui. Après, quand vous allez dire à quelqu'un qui a bossé 45 ans et qui a une retraite de 2 500 € par mois, que vous allez lui baisser sa retraite, il ne va pas aimer quand même.
Bah, hein. Il perdra 50 €. Bah, ouais, il n'aura pas le choix, mais en attendant, c'est ses enfants qui aujourd'hui cotisent, ils sont de moins en moins nombreux. Et, alors, oui, mais... et le système va dans le mur.
Oui, mais bon, en fait, moi, j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas traiter les choses de façon catégorielle. Oui, c'est un ensemble. Vous avez un programme de travail pour redresser la France, parce que vous parlez de l'écosystème français. Si vous vous intéressez, enfin, vous le savez, puisque vous l'avez pratiqué en tant qu'entrepreneur, quand vous voyez la réglementation qui existe dans beaucoup de domaines, alors je ne parle même pas du droit du travail, du droit social, vous avez des institutions représentatives du personnel ou censées l'être, qui sont surreprésentées, qui prennent la décision parfois à la place de l'encadrement dans de nombreuses entreprises. Comment voulez-vous inverser un système? Vous avez des conseillers prud'homaux qui sont surchargés, toujours pour les mêmes motifs. C'est gratuit, on y va. Notre système, non, il est extrêmement pernicieux. Oui, en tant qu'entrepreneur, on peut réussir, etc. Et encore, ça dépend. Il y a quand même des décisions qui sont fortement impactantes, à la hausse ou à la baisse, d'ailleurs. Hein. Ouais. On a eu le CICE à un moment donné qui a fait rentrer beaucoup d'argent. Il y a eu d'autres mesures. On vous parle des allègements de charges sociales en disant que c'est un don au patron, mais c'est la compensation des 35 heures. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Je suis pragmatique. Et à mon avis, je pense que c'est pareil. Moi, je reste vraiment. Je vais revenir sur le libéralisme. En fait, je pense que vous avez deux postes principaux aujourd'hui, c'est la sécu et les retraites. On résout ces problèmes, il n'y a pas de problème économique. La question, c'est qui veut s'attaquer à la sécu et aux retraites? Qui est prêt à baisser sa retraite et avoir moins de prise en charge? Point. Et une fois que vous avez ça, c'est réglé. En fait, le problème de l'État et des finances de l'État, il n'est pas très compliqué. Il faut une volonté politique. Alors après, parce que moi, je me dis, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et là, on va tomber sur un autre argument que vous auriez pu évoquer. C'est, mais Benjamin, 50% des Français qui votent ont plus de 60 ans. Si on dit bah on va baisser la retraite de la moitié des gens qui votent, vous pensez qu'ils vont voter pour vous? Bah bien sûr que non. Donc aucun homme politique veut dire on va baisser vos retraites puisque ce sont ces gens-là. Donc à droite, les retraités vont dire bah non, on va pas voter pour lui, il veut baisser les retraites. À gauche, bah on va augmenter les retraites parce que comme ça ils vont récupérer. Et donc en fait, on est dans un jeu qui est un peu malsain où en fait la responsabilité, et là on va revenir au chef d'entreprise, c'est à combien de fois on a pris des décisions mais hyper dures. Hyper dures à l'encontre parfois de nos salariés, mais on se disait c'était pour le bien de l'ensemble. Combien de fois on le fait ça? Mais on le fait tout le temps en tant que chef d'entreprise. En politique, ils ne savent plus le faire. Parce qu'en fait, c'est un peu le mal de la démocratie. Bah oui, on ne va pas attaquer les retraités, on ne va pas dire on baisse les retraites, parce que sinon, bah, on ne sera pas élu. Bah, ce n'est pas grave, au moins proposons quelque chose d'autre. Et moi, je pense que c'est là où, en tant qu'entrepreneur, on a un truc à amener. C'est qu'on est capable d'assurer deux choses. Un, la pérennité du pays dans le temps. C'est notre culture, nous, on va travailler pour la France dans les années futures. Et moi, je pense vraiment, et là, c'est le père qui parle, c'est qu'en fait aussi la notion d'avoir des enfants. Moi, je m'interroge à chaque fois sur la génération future. Et je me dis, aujourd'hui, il faut qu'on allège ces retraites, puisqu'en fait, on va tout donner pour ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et qui ont sur leur famille. Comment on peut avoir une jeunesse qui se marie, construit sa famille et un travail et des enfants, si, allez, c'est quoi ? C'est 50% de leurs revenus part pour payer des retraites. C'est pas cohérent. Quand on a un pays qui donne tout pour la sécu, donc les personnes qui sont malades, c'est essentiellement les personnes malheureusement qui ont plus de 60 ans, et les retraites qui sont malheureusement ceux qui ont plus de 65 ans, ben en fait, vous avez un pays aujourd'hui qui ponctionne l'ensemble de la richesse pour ces populations qui sont entre 60 et 90 ans. Maintenant, c'est un choix politique. Moi, je fais le choix de la jeunesse. Et donc, je me dis, bah, si on fait le choix de la jeunesse et des générations futures, moi, je pense que c'est ça un homme d'État. En fait, c'est un homme qui va travailler pour la génération future et pas pour celle actuelle. Ça, c'est les hommes politiques d'aujourd'hui. Moi, ils ne m'intéressent pas à ce jour. Et moi, ce qui m'importe, et c'est mes trois discours, c'est zéro déficit, c'est le hold-up générationnel. Il faut arrêter de passer nos dépenses publiques sur la population âgée. Et le troisième sujet qui est, à mon avis, important, hein, c'est de le mettre dans la Constitution, c'est ce zéro déficit qui doit être inscrit dans le marbre, de façon à ce que les hommes politiques n'aient plus cette capacité à creuser des déficits et avoir nos 60 milliards de taux d'intérêt. Et après, on y arrive. Hein. Et après, on change. Effectivement, on fait venir des forces nouvelles, comme dans une boîte. Il faut... On manque d'ingénieurs. Tout le monde dit on manque d'ingénieurs dans nos hommes politiques.
Oui, et puis on manque de mémoire aussi, parce que...
Enfin, on manque de beaucoup de choses.
Je pense qu'il y aurait un peu de crédibilité si, quand on a fait des erreurs, qu'on appartient à un parti qui a fait des erreurs dans le passé, on le reconnaît. Et le problème, c'est que ce n'est jamais reconnu. Moi, j'accepterais tout à fait, de la part de quelqu'un qui a des idées politiques différentes, qui me dise, écoutez, on va faire ça, et je reconnais que j'appartiens à une tendance qui a pris, prenons le cas de la retraite à 60 ans, Mitterrand, il a été élu en grande partie à cause de ça et applaudi à tout rompre par tout le monde et pas que la gauche. Hein. Et donc après, les mêmes qui appartenaient à ces partis commencent à réfléchir parce qu'ils sont en responsabilité, qu'ils voient sans doute une des plus grosses erreurs politiques qui a été faite au cours de ces 30 dernières années et ils commencent à se dire maintenant il faut rabioter à gauche et à droite. La démographie, c'est pareil. Tout a été fait pour qu'il n'y ait plus d'enfants et maintenant on se pose la question de savoir comment on va faire pour lancer ça. Donc, moi, j'accepte tout, mais il faut que les gens fassent amende honorable par rapport à ce qui s'est passé pour retrouver de la crédibilité et qu'ils ne nous donnent pas des leçons comme Attal, qui nous donne des leçons alors qu'il fait partie d'un parti qui a fait exactement l'opposé et qui a promu l'opposé de ce qu'il veut faire. Donc, moi, j'accepte. Mais oui, c'est vrai qu'ils disent, j'ai viré mes cutis et j'avance.
Oui, alors, le seul problème, c'est qu'avec un raisonnement comme ça, vous n'avez aucun parti politique qui est capable de porter cette réflexion. Et moi, c'est ça qui m'attriste, parce que je pense qu'on a tout pour réussir. C'est qui est capable aujourd'hui, effectivement, de sortir de cette logique politique pour aller sur une logique un peu d'État en disant, je suis convaincu que ça marche, c'est comme dans une entreprise. Du 109, on met le paquet sur cette génération qui arrive. Moi, je suis émerveillé par les jeunes là, de 20 à 30 ans. Je fais partie de tous ces mouvements qui se créent, qui sont en ébullition. En fait, ils ont le pays devant eux. Par contre, les hommes au pouvoir aujourd'hui, les hommes politiques doivent se dire, OK, on va leur faire une place, on va tout mettre devant. Donc, retraités, sécu, déficit, tout ce qui pèse sur les générations futures, on stoppe. Ça, c'est l'aspect éco. Mais après, il y a effectivement démographie. En fait, on sait qu'un pays, c'est deux piliers, hein, la démographie et la richesse économique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est toujours pareil. Si on dit, aux jeunes, là, vous avez votre premier salaire, moi, les enfants m'en parlent, ils découvrent qu'en fait, ils paument la moitié de leur salaire. Hein ? Quand vous êtes célibataire, vous démarrez votre travail, et l'État vous en chope 30%. Donc, direct, ils découvrent, la première entrée sur le monde du travail, c'est l'État, je bling !
Ça dépend du niveau de salaire que vous avez.
Ça dépend du niveau de salaire. Moi, je ne parle pas pour effectivement le SMIC.
Mais par contre, ceux qui sont bas, ils ont des aides aussi. Donc, ils ont un salaire réel qui est plus important.
Oui, mais on est d'accord qu'il faut arrêter ça. Ouais. Vaut mieux. Moi, l'autre proposition, c'est de dire que le brut, c'est le net. Et ça, c'était vraiment une attente de mes salariés à moi. C'est effectivement, il y a un moment où il faut arrêter. Le brut, c'est le net, point. C'est-à-dire que sur votre fiche de paye, vous allez toucher votre salaire réel et vous arrêtez. L'État arrête de prélever sur le travail l'ensemble.
Oui, mais le problème, c'est que ce sont les mêmes aussi qui s'arrêtent et qui se mettent 6 mois au chômage en visitant des pays à l'étranger. Donc, oui, il y a quand même une déformation complète sur un ensemble.
Il y a un vrai reprise en main à faire.
Et par contre, moi, je suis admiratif des jeunes qui sont travailleurs et qui sont réellement travailleurs. J'en vois dans le monde de l'intérim en particulier, des gens qui travaillent pour pas grand-chose et qui ont des tâches difficiles. Mais je vois aussi tout l'autre côté, des gens qui cessent porter par quand on met le prix des repas à 3 euros, etc. Comment voulez-vous responsabiliser les personnes ? Enfin, aujourd'hui, il y a des avantages extraordinaires qui n'existaient pas autrefois. Vous pouvez faire toutes vos études en alternance. C'est-à-dire que non seulement vous ne payez pas vos études, mais en plus vous êtes payé.
Ouais. Et vous avez
à l'époque, vous travaillez le week-end pour payer vos études. Quoi.
Donc il y a beaucoup de facilités.
Il y a des facilités aujourd'hui qui existent. Tant mieux. Hein, il faut aller dans ce sens-là, mais pas surtout, il faut quand même responsabiliser sur ce qui se passe. Chaque fois que l'État... Alors, vous parlez de générosité, moi, je suis très heurté par cette notion de générosité, parce que la générosité, c'est quand on sort de sa poche et que ça nous coûte.
Oui.
Quand on sort de la poche des autres, c'est pas de la générosité.
Ou elle est collective, entre guillemets.
Voilà, donc pour en revenir à Valeurs Actuelles, parce que
ouais,
finalement,
on s'est éloigné, mais en fait, on est sur des sujets
qui seront probablement abordés, traités, animés dans votre revue. Finalement, aujourd'hui, quand on reprend une revue qui, pour différentes raisons, était plutôt sur une pente déclinante, avec quand même un beau patrimoine en termes d'abonnés et de lecteurs, finalement, la stratégie qu'on peut mettre en place, elle repose en partie sur, par exemple, vous l'avez cité, le fait de remettre plus d'économie dans ce journal, pour revenir un peu sur ce que faisait Bourgine. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Enfin, probablement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à faire bouger ? Sans rentrer encore une fois dans
les
secrets.
Mais en fait, sans secret, vous l'avez vite compris. C'est-à-dire qu'en fait, le journal, il doit être le poumon de la droite. Et donc, pour être le poumon, il faut qu'il soit en lien avec le maximum de l'écosystème de droite. Et ça, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est tellement mouvant qu'en fait, il faut aller chercher à droite, il faut aller chercher à gauche, il faut aller chercher sur d'autres supports. En fait, le journaliste de presse, il reste avec son écriture et son journal. Et en fait, non, il faut aller voir le mec qui est sur YouTube aujourd'hui. Et c'est lui qu'il faut faire venir dans le journal. Et c'est avec lui qu'il faut faire un partenariat. Et donc, en fait, c'est le vrai job de Valeurs Actuelles demain. Donc, ça va être effectivement rajeunir et être dans les attentes. Mais après, ça va être de changer le format.
C'est-à-dire digitale.
Transition digitale, mais ça veut dire que les journalistes, demain, on ne leur demande plus de faire des articles écrits. On leur demande d'être filmés, on leur demande de faire un short d'une minute avec deux phrases introductives hyper, et après, on leur demande d'aller filmer quand ils parlent, je ne sais pas moi, des avions, et ben d'aller filmer un rafale. On ne leur demande pas de dire, ah ben c'est super, le rafale. Non, tu prends un film, tu le filmes, tu le fais qu'il décolle. Donc, c'est un changement de culture. Parce que entre écrire, c'est super beau le rafale et Dassault, merci, et je filme, je vais dans l'avion, je fais cette expérience, je la mets en une minute sur... Internet, voilà, donc c'est un vrai changement de culture et c'est obligatoire, sinon on disparaît. C'est-à-dire que le papier restera le support qui est quand même la clé parce que ça donne la notoriété, ça donne le prestige, donc il faut que ça soit de belle qualité, etc. Mais la clé demain, elle est sur les réseaux sociaux et donc il faut falloir qu'on accompagne aussi cette nouvelle génération qui ne lit plus de papier. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles vit sur encore des gens qui lisent et donc le journal restera toujours un peu une référence pour prendre le temps, etc. Mais la génération qui vient, elle ne lit plus.
Donc, vous pensez que le papier va durer combien de temps encore ?
Moi, je pense qu'il restera, mais un support haut de gamme.
Oui.
Un peu comme, vous voyez, le Figaro Magazine. C'est un peu ça, c'est devenu quelque chose d'un peu haut de gamme, élégant, avec de belles images, etc. Avec deux, trois articles de fond, mais pas trop, parce que les gens, il ne faut pas trop les embêter. Mais, et après, ça doit rester, parce que ça positionne le journal. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la génération qui arrive, elle ne le lit plus. Et donc, si on n'arrive pas à faire ça, mais ça marche très bien, hein, VA+, cartonne sur les réseaux sociaux. Ils ont le modèle, etc. Par contre, après, à nous d'enrichir le modèle, à nous de mettre des longs formats. Vous voyez, il y a le format légende, c'est une heure d'interview, un peu comme vous le faites là, d'ailleurs. Je vous invite à aller les voir. Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir tous ces formats à mettre en musique demain sur un journal qui est papier, mais qui va faire sa transition, quoi.
Alors, pour terminer cette émission, je crois qu'il nous reste 5-10 minutes. J'aimerais qu'on se projette un peu, qu'on soit un peu futuriste. Vous êtes au début de l'aventure avec Valeurs Actuelles. Si vous projetez dans 5 ans, on ne va pas aller trop loin. Idéalement, si vous avez réussi votre coup, quels seraient les fruits apparents pour le grand public ?
Alors, les fruits apparents. Alors, moi, je suis très business. Donc, les premiers fruits apparents, c'est la création de valeur. Donc, c'est un journal qui gagne bien sa vie, mais pas forcément pour les actionnaires. Ça serait vraiment un journal qui arrive à aider tout cet écosystème de droite, de façon à, avec la rentabilité dégagée, à inonder, à être sponsor d'une émission avec Radio Courtoisie, à être sponsor je ne sais pas, on parlait d'Amen Media, à être sponsor de tel événement qui se crée, de façon à ce que cet écosystème, un peu comme l'a fait Pierre-Édouard, assez intelligemment sur les domaines culturels, etc., qu'on puisse accompagner de façon totalement ouverte tout cet écosystème qui vibre et qui a besoin d'être accompagné. Et en fait, toute cette rentabilité, ce nouveau journal, on pourrait mettre toute cette force de Valeurs Actuelles au service des autres. Moi, j'ai vraiment ça au cœur, ça c'est très patron aussi. C'est en fait la réussite d'un journal, c'est la réussite d'un écosystème. Et quand c'est une entreprise, c'est plutôt l'écosystème de l'entreprise. Mais quand c'est un journal qui a une vocation nationale, c'est vraiment un journal au service finalement du pays, dans sa rentabilité, dans sa générosité, dans son accompagnement à des nouveaux projets, etc. Ça serait vraiment l'idéal. Voilà. Et puis avec un accompagnement là, des candidats à droite. Nous, on veut participer à la campagne présidentielle. On veut soutenir ces candidats de droite qui sont là, qui sont... on veut les pousser dans leurs convictions pour qu'ils aillent au bout et qu'ils ne soient pas timides, qu'ils ne soient pas tièdes. Vous avez compris que Valeurs Actuelles, c'est quand même très conservateur et on en est fiers. Vous parliez, on est à droite, pas à droite, je m'en fous en fait, moi. Moi, les idées qui doivent être défendues doivent être défendues et on ne doit pas en avoir honte.
Et c'est compatible avec la liberté qui vous est si chère.
Exactement.
Alors,
Peut-être pour terminer sur quelque chose d'un peu personnel, j'ai l'habitude de poser quelques questions en fin d'émission sur des choses.
Ah oui, tu...
Alors je sais que vous êtes historien et que vous êtes un grand lecteur. Est-ce que il y a des livres que vous pourriez conseiller à nos auditeurs et qui vous ont marqué plus particulièrement?
Ouais, alors les livres que je conseille, non, mais par contre, moi j'ai deux passions, d'ailleurs, dont ma femme trouve ça toujours surprenant. C'est les livres de Jean Daillon. Mmh. Donc Jean Daillon, c'est un agrégé d'histoire qui vivait à Aix. Et qui a écrit plein de romans historiques et dans lequel, en fait, il trame des intrigues d'époque. Alors, on est plutôt sur 16e, 17e, 18e siècle. Là, on rejoint Parot, qui est pareil. Ce sont des écrivains qui, pour moi, ont à la fois un amour du pays, en fait, une culture académique et en même temps le sens de l'intrigue. Voilà, moi, c'est vraiment ça, les livres que j'aime. C'est Jean Daillon, c'est vrai que c'est pour moi un peu... quand je lis, je me dis, en fait, je suis bien dans ce pays. Mmh. Et puis j'ai un petit côté romantique, enfin un peu tout fou, et ça va bien, c'est des livres un peu tout fou dans les intrigues.
Donc, et voilà. Un de ces livres plus particulièrement qui vous
vient le dernier que j'ai lu, c'était Le Pont de Montreux.
Oui.
Voilà, donc c'est celui-là que je vous avais ramené en disant, c'est pareil. C'est...
Qui touche quelle partie de l'histoire plus particulièrement?
Je vous le dirai quand je le finirai, parce que pour le moment je ne l'ai pas commencé, mais ouais. C'est celui qui était que j'ai acheté. Alors je les achète d'occasion, chez Gilbert Joseph d'ailleurs, je crois, qui malheureusement est en liquidation. Ouais. Voilà encore un drame. Ouais. Mais c'est celui-là que j'ai à lire. Et puis après, effectivement, il y en a plein. Il y a Le Chien de Baskerville.
Et Gilbert, c'est quoi l'explication de cette liquidation, en deux mots, selon vous?
Bon, vous la connaissez, c'est qu'on n'achète plus de livres, première chose. Et deuxièmement, c'est les prix réglementés. Ouais. Donc la presse, c'est un vrai sujet. C'est qu'en fait, vous ne pouvez pas gagner plus ou moins d'argent. Mmh. Vous gagnez toujours la même chose. Donc si vos ventes baissent, doucement, vous fermez. Et après, on a cette problématique. La France, je crois, est un dernier pays au monde avec autant de librairies et autant de livres publiés. Néanmoins, je ne sais pas si vos enfants qui ont 17-18 ans ont des livres, mais moi, ils n'en ont aucun.
Qu'est-ce que c'est dur.
Donc, on leur en colle, mais ils ne les prennent pas. Quoi.
Oui,
donc, Mais par contre, là, Macron a une intuition. Alors, je vais faire la pub de Macron, on va me dire que ça ne va pas. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, s'il y arrive, est très pertinent. Mmh. Et là, moi, je lui fais grâce, lui qui est quand même très intelligent, c'est effectivement d'interdire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à lutter, c'est tellement fort.
Ouais,
ces téléphones, il y a tout dessus, quoi. C'est nos vies, donc on interdit et ça résout les problèmes, puis ça aidera beaucoup les parents. Si Emmanuel Macron pouvait nous entendre et s'il pouvait vraiment arrêter ses réseaux sociaux au moins de 16 ans, je ne sais pas comment, là ça serait un service rendu à la nation. Hein.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants?
Écoutez, demain c'est l'appel du 18 juin et donc comme mon grand-père était résistant, je vais remettre la croix de la libération donc avec Emmanuel Macron, et en fait moi je leur souhaite juste de garder cet esprit de liberté ancré quand même dans cette histoire de France qui fait qu'en fait tout est possible. Et moi je dis toujours à mes enfants, mais en fait tout est possible. Tout est possible. On a en fait une histoire, une culture, alors moi dans ma famille c'est d'autant plus prégnant, mais on a chacun dans nos histoires familiales en fait ce moment où on est capable de prendre cet espace de liberté qui fait que tout est possible demain. Et moi j'aime bien avoir ça, certains diront c'est aussi l'espérance chrétienne, mais enfin les deux ensemble c'est merveilleux.
Votre foi vous a fortement influencé dans tout ce que vous avez fait. Au quotidien, comment vous l'associez à vos décisions d'entrepreneur?
Ouais, alors ça, c'est une question assez perso. Comment on traite ça? En fait, je crois que dans les discernements du quotidien, on est toujours finalement ramené à soi-même. Et donc, on a deux attitudes. Soit on se retire dans sa chambre et on est en silence, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à aller prier. Ça, c'est un réflexe de communautaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que dans le silence, en tous les cas, et tout le monde expérimente, hein, chrétien ou non chrétien, c'est là où spirituellement, en fait, le Seigneur apaise, le Seigneur vient visiter. Et en fait, les symboles qui font que, en fait, quand vous avez un choix difficile à faire, quand vous êtes en paix, dans le silence, en fait, c'est que le choix est bon. Quand vous êtes inquiet, c'est que le choix n'est pas bon. Et donc, en fait, dans le discernement spirituel, on nous apprend ça. On dit pose-toi, retire-toi dans ta chambre au calme, et voilà. Demande au Seigneur de venir un peu t'habiter. Et ça, ça marche bien. Et quand la paix arrive, c'est que le choix a été fait. Et quand on n'est pas calme ou qu'on est toujours agité ou torturé, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne au quotidien. Donc j'invite tout le monde à prendre ce temps de silence et de recueillement pour discerner.
Je vous remercie de terminer par cela. Écoutez, on a eu une émission extrêmement riche et
on aurait pu
doubler le temps de l'émission avec vous. Benjamin Lacombe, vous relevez un défi considérable en reprenant un titre aussi connu pour le redresser et le faire rayonner avec beaucoup d'ambition derrière. On a besoin d'ambition telle que celle-ci dans le paysage poétique français. C'est bien aussi d'affirmer ouvertement ce que l'on est, de le reconnaître et aussi de le désacraliser.
désacraliser à travers des expériences concrètes comme vous le faites. On vous souhaite une très grande réussite. Hein. Et puis, encore merci de nous avoir rejoints, Benjamin.
Merci
C'était
à vous.
L'émission des entrepreneurs de Louis Laboca. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et puis à très bientôt.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Entrepreneurs dirigé par Louis Laboca. Émission préenregistrée le 17 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 18 juin de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.